Gironde Mag, le magazine de mon département, numéro 117, janvier, février, mars 2017. À la une de ce numéro, l'orchestre Demos, au diapason des différences, pages 16 et 17. Également à la une, Force solidaire, page 22, halte aux pesticides. Histoire, page 26, atelier ferroviaire, ici chanter la révolution. Itinérance, page 28, sur la voie verte. Gironde Mag, le magazine de mon département, numéro 117, janvier, février, mars 2017. À la une de ce numéro, l'orchestre Demos, au diapason des différences, pages 16 et 17. Également à la une, Force solidaire, page 22, halte aux pesticides. Histoire, page 26, atelier ferroviaire. Ici, chanter la révolution. Itinérance, page 28, sur la voie verte. Édito du président du conseil départemental de la Gironde, Jean-Luc Glaise.
Je vous adresse, au nom de l'ensemble des élus et des agents du conseil départemental de la Gironde, une très bonne nouvelle année. Que 2017 soit une année solidaire. Ici, au département, nous ferons de l'année 2017 une année d'action et d'innovation sociale. L'action, l'innovation, a commencé par le revenu de base, au sujet duquel nous avons pris en Gironde un temps d'avance en lançant une étude avec la Fondation Jean Jaurès. Le revenu de base est un revenu individuel, attribué à tous sans condition. Naturellement, il questionne notre rapport au travail, à l'engagement, tout autant qu'il interroge notre système de protection sociale. S'il représente une opportunité pour assurer la dignité de tous, pour garantir un droit à l'autonomie pour chacun, nous devons toutefois en savoir davantage sur ses effets, et c'est le sens du travail que nous conduisons. 2017 sera aussi une année environnementale pour la Gironde, avec la poursuite de notre politique en faveur de la biodiversité et du développement durable. Rendez-vous notamment pour l'inauguration des aménagements du domaine de Certes, ce sera un moment capital. Et puis, pour 2017, nous poursuivrons nos efforts pour améliorer tous les jours les services du département, leur accessibilité à destination de tous les Girondins, petite enfance, collégiens, insertion, personnes en situation de handicap ou personnes âgées. Nous aurons cette année une grande exigence pour l'amélioration permanente de cette action de proximité, répondant aux besoins de toutes les Girondines et de tous les Girondins.
Édito du président du conseil départemental de la Gironde, Jean-Luc Glaise.
Je vous adresse, au nom de l'ensemble des élus et des agents du conseil départemental de la Gironde, une très bonne nouvelle année. Que 2017 soit une année solidaire. Ici, au département, nous ferons de l'année 2017 une année d'action et d'innovation sociale. L'action, l'innovation, a commencé par le revenu de base, au sujet duquel nous avons pris en Gironde un temps d'avance en lançant une étude avec la Fondation Jean Jaurès. Le revenu de base est un revenu individuel, attribué à tous sans condition. Naturellement, il questionne notre rapport au travail, à l'engagement, tout autant qu'il interroge notre système de protection sociale. S'il représente une opportunité pour assurer la dignité de tous, pour garantir un droit à l'autonomie pour chacun, nous devons toutefois en savoir davantage sur ses effets, et c'est le sens du travail que nous conduisons. 2017 sera aussi une année environnementale pour la Gironde, avec la poursuite de notre politique en faveur de la biodiversité et du développement durable. Rendez-vous notamment pour l'inauguration des aménagements du domaine de Certes, ce sera un moment capital. Et puis, pour 2017, nous poursuivrons nos efforts pour améliorer tous les jours les services du département, leur accessibilité à destination de tous les Girondins, petite enfance, collégiens, insertion, personnes en situation de handicap ou personnes âgées. Nous aurons cette année une grande exigence pour l'amélioration permanente de cette action de proximité, répondant aux besoins de toutes les Girondines et de tous les Girondins.
Sommaire. Ce numéro est divisé en trois parties. Près de chez vous, pages 3 à 11. Force solidaire, pages 12 à 23. À la découverte, pages 24 à 31. Aux pages 32 et 33 figurent les expressions politiques. Près de chez vous, Le Libournais est à la page 3, le Médoc à la page 4, le Bassin à la page 5, Haute-Gironde à la page 6, Porte du Médoc page 7, Haute-Garonne page 8, Bordeaux page 9, Graves page 10, Sud-Gironde page 11. Force solidaire, Maison d'enfants à caractère social page 12, Ostens, accueillir, échanger, partager page 14, l'Orchestre des Mos page 16, le budget 2017 page 18, le revenu de base, l'utopie utile page 20, les pesticides c'est pas automatique page 22. À la découverte, tête de Gironde page 24, histoire page 26, itinérance page 28, producteur de Gironde page 30. Sommaire, ce numéro est divisé en trois parties, près de chez vous page 3 à 11, force solidaire page 12 à 23, à la découverte, pages 24 à 31, aux pages 32 et 33, figurent les expressions politiques. Près de chez vous, le Libournais est à la page 3, le Médoc à la page 4, le Bassin à la page 5, Haute-Gironde à la page 6, Porte du Médoc page 7, Haute-Garonne page 8, Bordeaux page 9, Graves page 10, Sud-Gironde page 11. Force solidaire, Maison d'enfants à caractère social page 12, Ostens, accueillir, échanger, partager, page 14, l'Orchestre des Mos, page 16, le budget 2017, page 18, le revenu de base, l'utopie utile, page 20, les pesticides, c'est pas automatique, page 22. À la découverte, tête de Gironde, page 24, histoire, page 26, itinérance, page 28, producteur de Gironde, page 30. Cela se passe près de chez vous. Cela se passe près de chez vous. Libournais, hôpital Garde-Rose, un tremplin vers l'emploi. Titre professionnel validé, le 23 septembre dernier, 14 stagiaires ont bénéficié d'un chantier formation-insertion. Pendant 6 mois, ils ont participé à la réfection d'une partie de l'hôpital psychiatrique de Libourne.
Destiné en priorité à des jeunes suivis par la mission locale, aux demandeurs d'emploi de longue durée, et aux bénéficiaires du RSA, le chantier s'est déroulé de décembre 2015 à juillet 2016. Il a porté sur la rénovation des chambres de l'unité psychiatrique de l'hôpital de Libourne. Tout un étage du pavillon 46 a ainsi pu être réaménagé. Ces travaux de remise aux normes permettent d'améliorer l'accueil des résidents tout en proposant à des personnes en insertion de se former. C'est le principe du dispositif chantier formation-insertion porté par le département de la Gironde. Accompagnement social. 14 stagiaires, dont 4 femmes âgées de 18 à 47 ans, ont participé au projet. À l'issue, tous ont validé le titre professionnel « peintre en bâtiment », véritable sésame pour s'insérer dans une activité professionnelle en quête de main-d'œuvre. Porté par BatiPro, centre de formation basé à Libourne, les ateliers techniques ont été complétés par un volet d'accompagnement social afin de régler les difficultés de la vie quotidienne. Alexis Dapoigny, directeur de BatiPro, commente « La réussite de cette opération, c'est de savoir que la plupart des stagiaires ont retrouvé le chemin de l'emploi ou enchaîné sur des formations complémentaires. » Dans le cadre de sa politique d'insertion et d'accompagnement à l'emploi, le département a soutenu ce chantier à hauteur de 43 980 euros. Denise Grélard-Nedelec, vice-présidente du conseil départemental de la Gironde, chargée des politiques d'insertion, est venue remettre leur diplôme aux participants de ce groupe particulièrement solidaire et chaleureux. Plusieurs sessions de ce type ont lieu chaque année dans des secteurs en tension.
Cet article est illustré d'une photo portant pour légende à la rencontre des jeunes stagiaires. Libournais, hôpital Garde-Rose, un tremplin vers l'emploi. Titre professionnel validé, le 23 septembre dernier, 14 stagiaires ont bénéficié d'un chantier formation-insertion. Pendant 6 mois, ils ont participé à la réfection d'une partie de l'hôpital psychiatrique de Libourne.
Destiné en priorité à des jeunes suivis par la mission locale, aux demandeurs d'emploi de longue durée et aux bénéficiaires du RSA, le chantier s'est déroulé de décembre 2015 à juillet 2016. Il a porté sur la rénovation des chambres de l'unité psychiatrique de l'hôpital de Libourne. Tout un étage du pavillon 46 a ainsi pu être réaménagé. Ces travaux de remise aux normes permettent d'améliorer l'accueil des résidents tout en proposant à des personnes en insertion de se former. C'est le principe du dispositif chantier formation-insertion porté par le département de la Gironde. Accompagnement social. 14 stagiaires, dont 4 femmes âgées de 18 à 47 ans, ont participé au projet. À l'issue, tous ont validé le titre professionnel « peintre en bâtiment », véritable sésame pour s'insérer dans une activité professionnelle en quête de main-d'œuvre. Porté par BatiPro, centre de formation basé à Libourne, les ateliers techniques ont été complétés par un volet d'accompagnement social afin de régler les difficultés de la vie quotidienne. Alexis Dapoigny, directeur de BatiPro, commente « La réussite de cette opération, c'est de savoir que la plupart des stagiaires ont retrouvé le chemin de l'emploi ou enchaîné sur des formations complémentaires. » Dans le cadre de sa politique d'insertion et d'accompagnement à l'emploi, le département a soutenu ce chantier à hauteur de 43 980 euros. Denise Grélard-Nedelec, vice-présidente du conseil départemental de la Gironde, chargée des politiques d'insertion, est venue remettre leur diplôme aux participants de ce groupe particulièrement solidaire et chaleureux. Plusieurs sessions de ce type ont lieu chaque année dans des secteurs en tension.
Cet article est illustré d'une photo portant pour légende à la rencontre des jeunes stagiaires.
25 novembre, inauguration de la déviation routière de Galgon sur la RD 138. L'opération a permis de désengorger le cœur du centre-ville, d'installer des protections anti-bruit, allant dans le sens du respect de l'environnement et du cadre de vie. Une aire de covoiturage a aussi été aménagée. Le département a financé la totalité de la déviation à hauteur de 9 millions d'euros. 25 novembre, inauguration de la déviation routière de Galgon sur la RD 138. L'opération a permis de désengorger le cœur du centre-ville, d'installer des protections anti-bruit, allant dans le sens du respect de l'environnement et du cadre de vie. Une aire de covoiturage a aussi été aménagée. Le département a financé la totalité de la déviation à hauteur de 9 millions d'euros.
Médoc, bien vieillir ensemble. Lutter contre l'isolement des personnes âgées, renforcer les liens intergénérationnels, coordonner les actions de terrain, tels sont les objectifs du département sur ce vaste territoire. Autant de missions qui ont été rappelées lors du premier forum gérontologique « Bien vieillir ensemble en Médoc » qui s'est tenu à Carcans. Le pays Médoc, la Mutualité sociale agricole et le pôle territorial de solidarité du Médoc étaient à la manœuvre.
Cet événement grand public a réuni environ 300 personnes lors du dernier trimestre 2016. Il a permis aux particuliers, bénévoles et professionnels de mieux se connaître et de découvrir les moyens mis en œuvre sur le territoire médocain en direction des personnes âgées. Parce que la vie au troisième et quatrième âge ne se limite pas à l'accueil en maison de retraite, cette journée a surtout été l'occasion de présenter le guide des ressources regroupant toutes les informations utiles pour bien vieillir. Enrichi d'une cartographie, ce guide permet d'identifier clairement les solutions pour faciliter sa vie ou celle d'un proche au quotidien, de trouver les bonnes structures, d'identifier les aides. Cette brochure, prolongée par une version numérique, apporte des conseils en termes de prévention et de santé. Fruit de très nombreuses collaborations sur l'ensemble du territoire, sa variante dématérialisée permet sa réactualisation et son amélioration constante. Les transports de proximité, les réseaux de professionnels, l'accueil familial, les établissements d'hébergement pour personnes âgées. Nombreux sont les dispositifs prévus pour que chacun vive au mieux le grand âge. Attentif aux besoins de ses aînés, le pôle territorial de solidarité du Médoc du département s'est enrichi d'un centre local d'information et de coordination gérontologique, CLIC, sur son site de Castelnau de Médoc, afin d'informer, de faciliter les démarches de proximité et d'aide à la personne. Il constitue l'exemple concret du déploiement de l'accueil territorialisé mis en place par le département depuis le 2 novembre dernier. Choix de vie respecté. La politique du conseil départemental consiste principalement à s'assurer que le choix de vie fait par la personne âgée soit respecté. Ainsi, en établissement ou à domicile, le département intervient dans le quotidien des aînés médocains, notamment par la gestion et le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, à domicile et en établissement. Il soutient également de nombreuses structures associatives visant à faciliter la vie de ces personnes et de leur entourage, et s'investit au travers de la prise en charge de multiples actions comme l'aide à domicile, vivre chez soi le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions, ou être hébergé, lorsqu'on le souhaite, dans un établissement adapté à ses envies et à ses besoins, sont des droits.
Médoc, bien vieillir ensemble. Lutter contre l'isolement des personnes âgées, renforcer les liens intergénérationnels, coordonner les actions de terrain, tels sont les objectifs du département sur ce vaste territoire. Autant de missions qui ont été rappelées lors du premier forum gérontologique, bien vieillir ensemble en Médoc, qui s'est tenu à Carcan. Le pays Médoc, la mutualité sociale agricole et le pôle territorial de solidarité du Médoc étaient à la manœuvre.
Cet événement grand public a réuni environ 300 personnes lors du dernier trimestre 2016. Il a permis aux particuliers, bénévoles et professionnels de mieux se connaître et de découvrir les moyens mis en œuvre sur le territoire médocain en direction des personnes âgées. Parce que la vie au troisième et quatrième âge ne se limite pas à l'accueil en maison de retraite, cette journée a surtout été l'occasion de présenter le guide des ressources regroupant toutes les informations utiles pour bien vieillir. Enrichi d'une cartographie, ce guide permet d'identifier clairement les solutions pour faciliter sa vie ou celle d'un proche au quotidien, de trouver les bonnes structures, d'identifier les aides. Cette brochure, prolongée par une version numérique, apporte des conseils en termes de prévention et de santé. Fruit de très nombreuses collaborations sur l'ensemble du territoire, sa variante dématérialisée permet sa réactualisation et son amélioration constante. Les transports de proximité, les réseaux de professionnels, l'accueil familial, les établissements d'hébergement pour personnes âgées. Nombreux sont les dispositifs prévus pour que chacun vive au mieux le grand âge. Attentif aux besoins de ses aînés, le pôle territorial de solidarité du Médoc du département s'est enrichi d'un centre local d'information et de coordination gérontologique, CLIC, sur son site de Castelnau de Médoc, afin d'informer, de faciliter les démarches de proximité et d'aide à la personne. Il constitue l'exemple concret du déploiement de l'accueil territorialisé mis en place par le département depuis le 2 novembre dernier. Choix de vie respecté. La politique du conseil départemental consiste principalement à s'assurer que le choix de vie fait par la personne âgée soit respecté. Ainsi, en établissement ou à domicile, le département intervient dans le quotidien des aînés médocains, notamment par la gestion et le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, à domicile et en établissement. Il soutient également de nombreuses structures associatives visant à faciliter la vie de ces personnes et de leur entourage, et s'investit au travers de la prise en charge de multiples actions comme l'aide à domicile, vivre chez soi le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions, ou être hébergé, lorsqu'on le souhaite, dans un établissement adapté à ses envies et à ses besoins, sont des droits.
Plateforme Accueil Autonomie, 05 56 99 66 99. Pour vous écouter, vous conseiller, vous informer, contactez-le. Un numéro unique pour répondre à toutes vos questions sur le handicap, la perte d'autonomie, vos droits, vos prestations. Prix d'un appel local du lundi au jeudi de 9h à 17h15 et le vendredi de 9h à 16h30. Pôle territorial de solidarité du Médoc, 1 B rue André Audubert, 33 490 Castelnau de Médoc, téléphone 05 57 88 84 90. 20 décembre, à Salone, sont lancés les travaux d'amélioration du haut débit, un chantier qui consiste à tirer 6 km de fibres optiques de Sainte-Hélène à Salone et qui permettra d'offrir à 373 foyers une réception d'Internet optimisée. Pour mémoire, le département investira 3,2 millions d'euros sur les 5 prochaines années pour le déploiement du haut débit. Plateforme accueil autonomie 05 56 99 66 99. Pour vous écouter, vous conseiller, vous informer, contactez-le. Un numéro unique pour répondre à toutes vos questions sur le handicap, la perte d'autonomie, vos droits, vos prestations. Prix d'un appel local du lundi au jeudi de 9h à 17h15 et le vendredi de 9h à 16h30. Pôle territorial de solidarité du MEDOC, 1 B rue André Audubert, 33 490 Castelnau de Médoc, téléphone 05 57 88 84 90. 20 décembre, à Salone, sont lancés les travaux d'amélioration du haut débit, un chantier qui consiste à tirer 6 km de fibres optiques de Sainte-Hélène à Salone et qui permettra d'offrir à 373 foyers une réception d'Internet optimisée. Pour mémoire, le département investira 3,2 millions d'euros sur les 5 prochaines années pour le déploiement du haut débit.
Le bassin, moteur garage du cœur sous le capot. Sur le bassin, un garage pas comme les autres a ouvert ses portes en avril dernier. Ici, on répare et on vend des voitures, mais pas seulement. Le moteur garage, dernier né des garages solidaires, permet aux Girondins en difficulté d'entretenir à moindre coût leurs véhicules et donne un coup d'accélérateur à leur quotidien.
Des pneus, des outils, un pont élévateur, un mécanicien en combinaison, le moteur garage de la Teste de Buch ressemble à n'importe quel garage, si ce n'est qu'il est ouvert aux personnes en difficulté. En lançant l'activité, Émilie Vandellos Duflos, directrice de l'association et porteuse du projet, voulait être un des maillons de la chaîne dans le retour à l'emploi. Pour conserver ou retrouver un emploi, la mobilité est indispensable. Or, beaucoup de gens n'ont pas les moyens de s'acheter ou de faire réparer un véhicule. Il s'agit de mettre à la disposition des plus démunis un garage et un mécanicien pour de l'entretien courant à un prix abordable. En retrouvant un véhicule fiable, il est plus facile d'avoir accès à l'emploi, à la formation, aux soins et plus globalement d'améliorer son quotidien. À vocation sociale et solidaire, Moteur Garage ne concurrence pas les professionnels environnants puisque celles et ceux qui le fréquentent n'auraient de toute façon pas les moyens de s'offrir les services d'un garage classique. Après le règlement d'une adhésion annuelle pour deux véhicules d'un même foyer, des mécaniciens se mettent au travail. Mécaniciens de la solidarité. Changement de disque, plaquettes, vidange, pneus, distribution. Le moteur garage assure la mécanique générale des véhicules. Et le concept semble bien prendre puisqu'en ce début d'année, l'association compte près de 150 adhérents et a pratiqué tout autant d'interventions. Lauréat de l'appel à l'initiative du département de la Gironde, innovation sociale et économie sociale et solidaire, Moteur Garage se réjouit de l'accompagnement dont il bénéficie. Aide technique, animation, mise en réseau, promotion des initiatives, communication, et va consacrer sa subvention de 2000 euros à l'achat d'un second pont indispensable à son développement. Ajoutons que ce garage pourrait être l'un des acteurs de la plateforme de mobilité du bassin d'Arcachon, Val de l'Air, que le département envisage d'ouvrir au deuxième semestre 2017. Désormais, deux mécaniciens y travaillent et Émilie Vandellos Duflos cherche à recruter un nouveau contrat aidé pour étoffer son équipe. Mais pour que tout cela fonctionne, Moteur Garage va devoir non seulement poursuivre son activité de réparation, mais également vendre à prix modéré les voitures qu'il aura remises en état pour rouler en toute sécurité. Alors l'association appelle aux dons de voitures déductibles des impôts. Une démarche solidaire plutôt que lucrative qui permettra à une personne en insertion de trouver du travail, car souvent, pas de voiture, pas de travail, pas de travail, pas de voiture. C'est mieux que d'envoyer sa voiture à la casse, non ?
Le bassin, motor garage du cœur sous le capot. Sur le bassin, un garage pas comme les autres a ouvert ses portes en avril dernier. Ici, on répare et on vend des voitures, mais pas seulement. Le motor garage, dernier né des garages solidaires, permet aux Girondins en difficulté d'entretenir à moindre coût leurs véhicules et donne un coup d'accélérateur à leur quotidien.
Des pneus, des outils, un pont élévateur, un mécanicien en combinaison, le moteur garage de la Teste de Buch ressemble à n'importe quel garage, si ce n'est qu'il est ouvert aux personnes en difficulté. En lançant l'activité, Émilie Vandellos Duflos, directrice de l'association et porteuse du projet, voulait être un des maillons de la chaîne dans le retour à l'emploi. Pour conserver ou retrouver un emploi, la mobilité est indispensable. Or, beaucoup de gens n'ont pas les moyens de s'acheter ou de faire réparer un véhicule. Il s'agit de mettre à la disposition des plus démunis un garage et un mécanicien pour de l'entretien courant à un prix abordable. En retrouvant un véhicule fiable, il est plus facile d'avoir accès à l'emploi, à la formation, aux soins et plus globalement d'améliorer son quotidien. À vocation sociale et solidaire, Motor Garage ne concurrence pas les professionnels environnants puisque celles et ceux qui le fréquentent n'auraient de toute façon pas les moyens de s'offrir les services d'un garage classique. Après le règlement d'une adhésion annuelle pour deux véhicules d'un même foyer, les mécaniciens se mettent au travail. Mécaniciens de la solidarité. Changement de disque, plaquettes, vidange, pneus, distribution. Le moteur garage assure la mécanique générale des véhicules. Et le concept semble bien prendre, puisqu'en ce début d'année, l'association compte près de 150 adhérents et a pratiqué tout autant d'interventions. Lauréat de l'appel à l'initiative du département de la Gironde, innovation sociale et économie sociale et solidaire, Motor Garage se réjouit de l'accompagnement dont il bénéficie. Aide technique, animation, mise en réseau, promotion des initiatives, communication, et va consacrer sa subvention de 2000 euros à l'achat d'un second pont indispensable à son développement. Ajoutons que ce garage pourrait être l'un des acteurs de la plateforme de mobilité du bassin d'Arcachon, Val de l'Air, que le département envisage d'ouvrir au deuxième semestre 2017. Désormais, deux mécaniciens y travaillent, et Émilie Vandellos Duflos cherche à recruter un nouveau contrat aidé pour étoffer son équipe. Mais pour que tout cela fonctionne, Motor Garage va devoir non seulement poursuivre son activité de réparation, mais également vendre à prix modéré des voitures qu'il aura remises en état pour rouler en toute sécurité. Alors l'association appelle aux dons de voitures déductibles des impôts. Une démarche solidaire plutôt que lucrative qui permettra à une personne en insertion de trouver du travail, car souvent, pas de voiture, pas de travail, pas de travail, pas de voiture. C'est mieux que d'envoyer sa voiture à la casse, non ?
Association Motor Garage. Contact Émilie Vandellos Duflos, 05 56 66 97 99. Du lundi au vendredi, 9h 12h 14h 18h. 1541 avenue du Parc des Expositions, la Teste de Buch. Plus d'informations sur la page Facebook Association Motor Garage, motorgarage33@gmail.com. 17 octobre, les élus du département ont voté l'attribution d'aide aux communes du bassin et du littoral atlantique pour le nettoyage manuel des plages. C'est aussi une reconnaissance des actions citoyennes et associatives en faveur de la propreté de lieux qui font la fierté de la Gironde. Le montant global de l'opération s'élève à près de 1,06 million d'euros. Association Motor Garage. Contact Émilie Vandelos Duflos, 05 56 66 97 99. Du lundi au vendredi, 9h, 12h, 14h, 18h. 1541 Avenue du Parc des Expositions, La Thèse de Bûche. Plus d'informations sur la page Facebook Association Motor Garage, motorgarage33@gmail.com. 17 octobre, les élus du département ont voté l'attribution d'aide aux communes du bassin et du littoral atlantique pour le nettoyage manuel des plages. C'est aussi une reconnaissance des actions citoyennes et associatives en faveur de la propreté de lieux qui font la fierté de la Gironde. Le montant global de l'opération s'élève à près de 1,06 million d'euros.
Haute Gironde, des aides à domicile connectées. Pour mieux entourer et épauler les personnes âgées, familles et soignants sont à la recherche de solutions. Ils apprécient l'expérimentation d'un nouvel outil de formation numérique, M2OC, en Haute-Gironde.
L'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française, IRFSS, s'est engagé dans le maintien des personnes âgées à domicile. Dans cet objectif, il a souhaité s'associer avec des auxiliaires de vie travaillant en milieu rural via l'Association de maintien et de soins à domicile de la Haute-Gironde, AMSADHG, basée à Saint-Savin. En ce début d'année, 15 auxiliaires de vie travaillant en milieu rural vont suivre une formation grâce à un MOOC, Massive Open Online Course, des cours en ligne ouverts à tous. Voilà un nouveau mode d'apprentissage et d'accès à la connaissance plutôt original. Intitulé « Devenez acteur de la prévention à domicile », ce MOOC, testé dans un premier temps en Haute-Gironde, est un projet 100% numérique qui propose aux professionnels un apprentissage ludique, des connaissances théoriques et des mises en situation concrètes pour améliorer leurs qualifications et valoriser leur métier. Une prévention 3.0. C'est une profession qui, malgré son importance majeure dans le quotidien du maintien à domicile, souffre de reconnaissance, explique Eliane Fossé, directrice de l'IRFSS, ce qui entraîne un manque d'attractivité et des difficultés de recrutement. Le bénéfice sera évident en termes de pratiques professionnelles, mais aussi d'approches nouvelles du travail dans sa large dimension sociale. Équipés de tablettes numériques, les 15 auxiliaires de vie de l'AMSTAGD auront accès en tout lieu et à tout moment à ce support pédagogique. Les objectifs sont essentiellement de sécuriser les patients suivis à domicile et de valoriser le rôle de prévention des auxiliaires de vie avec l'appropriation d'un outil de formation numérique accessible à distance. Le Conseil départemental accompagne ses auxiliaires, lauréats de l'appel à initiative Innovation sociale et économie sociale et solidaire, dans le développement du projet. Le département nous apporte un regard distancié et aiguisé avec toute l'expérience qui est la sienne, ajoute Eliane Fossé. L'étape suivante sera d'améliorer ce MOOC après l'expérimentation sur le terrain et pourquoi pas de le diffuser via Internet à tous les acteurs de l'aide à domicile intéressés.
Cet article est illustré d'une photo de l'équipe engagée dans l'expérimentation de l'outil de formation numérique. Haute-Gironde, des aides à domicile connectées. Pour mieux entourer et épauler les personnes âgées, familles et soignants sont à la recherche de solutions. Ils apprécient l'expérimentation d'un nouvel outil de formation numérique, M2OC, en Haute-Gironde.
L'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française, IRFSS, s'est engagé dans le maintien des personnes âgées à domicile. Dans cet objectif, il a souhaité s'associer avec des auxiliaires de vie travaillant en milieu rural via l'Association de maintien et de soins à domicile de la Haute-Gironde, AMSADHG, basée à Saint-Savin. En ce début d'année, 15 auxiliaires de vie travaillant en milieu rural vont suivre une formation grâce à un MOOC, Massive Open Online Course, des cours en ligne ouverts à tous. Voilà un nouveau mode d'apprentissage et d'accès à la connaissance plutôt original. intitulé « Devenez acteur de la prévention à domicile », ce MOOC, testé dans un premier temps en Haute-Gironde, est un projet 100% numérique qui propose aux professionnels un apprentissage ludique, des connaissances théoriques et des mises en situation concrètes pour améliorer leurs qualifications et valoriser leur métier. Une prévention 3.0. C'est une profession qui, malgré son importance majeure dans le quotidien du maintien à domicile, souffre de reconnaissance, explique Eliane Fossé, directrice de l'IRFSS, ce qui entraîne un manque d'attractivité et des difficultés de recrutement. Le bénéfice sera évident en termes de pratiques professionnelles, mais aussi d'approches nouvelles du travail dans sa large dimension sociale. Équipés de tablettes numériques, les 15 auxiliaires de vie de l'AMSTAGD auront accès en tout lieu et à tout moment à ce support pédagogique. Les objectifs sont essentiellement de sécuriser les patients suivis à domicile et de valoriser le rôle de prévention des auxiliaires de vie avec l'appropriation d'un outil de formation numérique accessible à distance. Le conseil départemental accompagne ses auxiliaires, lauréats de l'appel à initiative Innovation sociale et économie sociale et solidaire, dans le développement du projet. Le département nous apporte un regard distancié et aiguisé avec toute l'expérience qui est la sienne, ajoute Eliane Fossé. L'étape suivante sera d'améliorer ce MOOC après l'expérimentation sur le terrain et pourquoi pas de le diffuser via Internet à tous les acteurs de l'aide à domicile intéressés.
Cet article est illustré d'une photo de l'équipe engagée dans l'expérimentation de l'outil de formation numérique.
25 novembre, réunion d'information à 5 après de Blaye sur le déploiement du numérique. Sur ce vaste territoire, il s'agit bien de permettre à tous les habitants d'avoir accès à Internet en très haut débit. Pour mémoire, le département mobilise une enveloppe de 3,2 millions d'euros pour atteindre cet objectif à l'échelle de la Gironde. 25 novembre, réunion d'information à 5 après de Blaye sur le déploiement du numérique. Sur ce vaste territoire, il s'agit bien de permettre à tous les habitants d'avoir accès à Internet en très haut débit. Pour mémoire, le département mobilise une enveloppe de 3,2 millions d'euros pour atteindre cet objectif à l'échelle de la Gironde.
Porte du Médoc. Avec drop de béton, le fauteuil transforme l'essai. De retour des Jeux paralympiques de Rio, Cédric Dubord poursuit son travail auprès des sportifs du rugby fauteuil. Avec l'association Drop de béton, installée à Mérignac, il est l'un des précurseurs de la discipline en France, un sport spectaculaire et survitaminé.
La passion du sport et les valeurs du rugby étaient deux choses essentielles pour moi, que je souhaitais transmettre aux personnes en situation de handicap pour les aider à ne pas se refermer sur elles-mêmes. Titulaire d'une licence activité physique adaptée, Cédric Dubord intègre l'association mérignacaise Drop de béton en 2006, avec l'objectif de faire connaître le rugby fauteuil. La discipline en est alors à ses balbutiements en France. Elle s'adresse aux personnes lourdement handicapées. C'est un sport de battant pour sortir de chez soi et dépasser ses limites, pointe l'éducateur.
Le choc des guerriers.
Sur le parquet, harnachés dans leur fauteuil, les joueurs sont en pleine puissance et n'ont pas peur de foncer dans le tas. Contact et engagement physique sont les deux piliers de cette pratique. Les matchs se jouent en intérieur avec un ballon de volley et deux équipes de quatre joueurs qui doivent passer la ligne de but adverse avec le ballon. Pendant quatre quart-temps de 8 minutes, le choc des fauteuils renforcés rythme la rencontre. Au départ, nous n'avions aucun matériel. On a organisé la première Coupe de France en 2008 à Bordeaux et nous avons reçu les fauteuils une semaine avant la compétition, se rappelle Cédric Dubord. Désormais, l'équipe évolue en National 2 au rythme de 2 entraînements par semaine au gymnase Colombier. Outil d'insertion, cette déclinaison du rugby est venue rejoindre le panel d'activités proposé par Drop de béton. L'association a toujours utilisé le ballon comme un fil conducteur. Elle encourage la pratique féminine du rugby, notamment auprès des jeunes et des adolescents. Elle intervient aussi dans les cités, en milieu carcéral ou sur les plages. Et pour changer le regard sur le handicap, les joueurs en fauteuil sont invités à intervenir régulièrement dans les entreprises, les centres de loisirs et auprès des scolaires. Une façon radicale de changer le regard du public sur le handicap.
Cet article est illustré d'une photo d'un match de rugby fauteuil au gymnase Colombier. Porte du Médoc. Avec drop de béton, le fauteuil transforme l'essai. De retour des Jeux paralympiques de Rio, Cédric Dubord poursuit son travail auprès des sportifs du rugby fauteuil. Avec l'association Drop de béton, installée à Mérignac, il est l'un des précurseurs de la discipline en France, un sport spectaculaire et survitaminé.
La passion du sport et les valeurs du rugby étaient deux choses essentielles pour moi, que je souhaitais transmettre aux personnes en situation de handicap pour les aider à ne pas se refermer sur elles-mêmes. Titulaire d'une licence activité physique adaptée, Cédric Dubord intègre l'association mérignacaise Drop de béton en 2006, avec l'objectif de faire connaître le rugby fauteuil. La discipline en est alors à ses balbutiements en France. Elle s'adresse aux personnes lourdement handicapées. C'est un sport de battant pour sortir de chez soi et dépasser ses limites, pointe l'éducateur.
Le choc des guerriers.
Sur le parquet, harnachés dans leur fauteuil, les joueurs sont en pleine puissance et n'ont pas peur de foncer dans le tas. Contact et engagement physique sont les deux piliers de cette pratique. Les matchs se jouent en intérieur avec un ballon de volée et deux équipes de quatre joueurs qui doivent passer la ligne de but adverse avec le ballon. Pendant quatre quart-temps de 8 minutes, le choc des fauteuils renforcés rythme la rencontre. Au départ, nous n'avions aucun matériel. On a organisé la première Coupe de France en 2008 à Bordeaux et nous avons reçu les fauteuils une semaine avant la compétition, se rappelle Cédric Dubord. Désormais, l'équipe évolue en National 2 au rythme de 2 entraînements par semaine au gymnase Colombier. Outil d'insertion, cette déclinaison du rugby est venue rejoindre le panel d'activités proposé par Drop de béton. L'association a toujours utilisé le ballon comme un fil conducteur. Elle encourage la pratique féminine du rugby, notamment auprès des jeunes et des adolescents. Elle intervient aussi dans les cités, en milieu carcéral ou sur les plages. Et pour changer le regard sur le handicap, les joueurs en fauteuil sont invités à intervenir régulièrement dans les entreprises, les centres de loisirs et auprès des scolaires. Une façon radicale de changer le regard du public sur le handicap.
Cet article est illustré d'une photo d'un match de rugby fauteuil au gymnase Colombier.
Contact. Drop de béton, maison des associations de Mérignac, 55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33 700 Mérignac, 05 56 97 46 90, www.drop-de-béton.fr.
Quelques chiffres. 108 adhérents, 14 salariés chez Drop de béton. 20 000 euros, c'est l'aide annuelle du département apportée à l'association.
10 septembre, inauguration de la ferme urbaine et culturelle La Vacherie à Blanquefort. L'édifice, qui appartient à la ville, regroupe désormais une fromagerie avec 250 brebis, un laboratoire de transformation et un espace de vente. Des gîtes viendront compléter l'offre existante de mini-séjours. Le département a soutenu cette réhabilitation à hauteur de 55 105 euros. Contact. Drop de béton, maison des associations de Mérignac, 55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33 700 Mérignac, 05 56 97 46 90, www.drop-de-béton.fr.
Quelques chiffres. 108 adhérents, 14 salariés chez Drop de béton. 20 000 euros, c'est l'aide annuelle du département apportée à l'association.
10 septembre, inauguration de la ferme urbaine et culturelle La Vacherie à Blanquefort. L'édifice, qui appartient à la ville, regroupe désormais une fromagerie avec 250 brebis, un laboratoire de transformation et un espace de vente. Des gîtes viendront compléter l'offre existante de mini-séjours. Le département a soutenu cette réhabilitation à hauteur de 55 105 euros.
Eau de Garonne, nos mondes alternatifs, petite boîte et grand changement. Une auteure et une illustratrice lancent une box militante pour promouvoir un mode de vie alternatif et éco-citoyen s'opposant à notre société de surconsommation. À travers un récit et des cadeaux, elles œuvrent pour le changement au quotidien.
Début décembre, les premiers colis ont été expédiés. Les boîtes ou boxes, baptisées « Nos mondes alternatifs », sont composées de l'introduction d'une histoire en 3 épisodes et mêlent quelques surprises, shampoing solide, chocolat équitable ou brosse à dents en bois. Habile équilibre entre création, pragmatisme et innovation, le projet dispose déjà de 2 histoires. Les créatrices se sont fixées pour objectif d'atteindre 5000 commandes pour cette première année. Mais au départ, c'est l'histoire d'une bonne idée qui germe, fruit de la rencontre de 2 jeunes femmes, et grandit lentement jusqu'à déboucher aujourd'hui sur un projet éco-citoyen, ludique et engagé. Sophie G. Wiener, installée à Saint-Sulpice et Camérac, auteure d'un roman anticipation, ALE 2100, et Evie, illustratrice militante, se découvre il y a 1 an. Elles ont un rêve commun, sensibiliser le public aux initiatives en matière d'alternatives écologiques au travers de récits imaginaires. Histoire et cadeaux raisonnés. L'une manie la plume, menant ses héros à l'aventure dans des mondes alternatifs aux nôtres, pollués et ultra-consommateurs. L'autre a, depuis 1 an, mis ses pinceaux au service du développement durable. Fortes de leurs expériences respectives et convaincues que la pratique est plus convaincante qu'un long discours, elles décident d'inviter leurs lecteurs à tester à leur tour des modes de consommation éco-responsables. C'est ainsi qu'est né le concept de pochette surprise alternative, des box qui arrivent par courrier et contiennent une histoire en épisode accompagnée d'une sélection de produits respectueux de l'environnement. « À essayer », raconte Sophie. Récompensée en novembre 2016 par le prix « Coup de cœur » des trophées Agenda 21 de la Gironde, la société « Nos mondes alternatifs » a bénéficié d'un coup de pouce du département à hauteur de 1 000 euros, consacré à tester de nouveaux produits, à lancer les premières impressions et à créer le site internet. Cette somme est complétée par une campagne de financement participatif qui vient boucler le budget.
www.nosmondesalternatifs.com.
Eau de Garonne, nos mondes alternatifs, petite boîte et grand changement. Une auteure et une illustratrice lancent une box militante pour promouvoir un mode de vie alternatif et éco-citoyen s'opposant à notre société de surconsommation. À travers un récit et des cadeaux, elles œuvrent pour le changement au quotidien.
Début décembre, les premiers colis ont été expédiés. Les boîtes ou boxes, baptisées « Nos mondes alternatifs », sont composées de l'introduction d'une histoire en 3 épisodes et mêlent quelques surprises, shampoing solide, chocolat équitable ou brosse à dents en bois. Habile équilibre entre création, pragmatisme et innovation, le projet dispose déjà de 2 histoires. Les créatrices se sont fixées pour objectif d'atteindre 5000 commandes pour cette première année. Mais au départ, c'est l'histoire d'une bonne idée qui germe, fruit de la rencontre de 2 jeunes femmes, et grandit lentement jusqu'à déboucher aujourd'hui sur un projet éco-citoyen, ludique et engagé. Sophie G. Wiener, installée à Saint-Sulpice et Camérac, auteure d'un roman anticipation, ALE 2100, et Evie, illustratrice militante, se découvre il y a 1 an. Elles ont un rêve commun, sensibiliser le public aux initiatives en matière d'alternatives écologiques au travers de récits imaginaires. Histoire et cadeaux raisonnés. L'une manie la plume, menant ses héros à l'aventure dans des mondes alternatifs aux nôtres, pollués et ultra-consommateurs. L'autre a, depuis 1 an, mis ses pinceaux au service du développement durable. Fortes de leurs expériences respectives et convaincues que la pratique est plus convaincante qu'un long discours, elles décident d'inviter leurs lecteurs à tester à leur tour des modes de consommation éco-responsables. C'est ainsi qu'est né le concept de pochette surprise alternative, des box qui arrivent par courrier et contiennent une histoire en épisode accompagnée d'une sélection de produits respectueux de l'environnement. À essayer, raconte Sophie. Récompensée en novembre 2016 par le prix Coup de cœur des trophées Agenda 21 de la Gironde, la société Nos Mondes Alternatifs a bénéficié d'un coup de pouce du département à hauteur de 1 000 euros. Consacrée à tester de nouveaux produits, à lancer les premières impressions et à créer le site internet, cette somme est complétée par une campagne de financement participatif qui vient boucler le budget.
www.nosmondesalternatifs.com 26 novembre, inauguration des travaux de réaménagement de l'école élémentaire de Camblane et Ménac dans le cadre des politiques départementales d'aide aux communes, mais aussi du chantier de la route de Morillon, soit la RD14E1. Le département a financé ces aménagements à hauteur de 24 700 euros. 26 novembre, inauguration des travaux de réaménagement de l'école élémentaire de Camblane et Ménac dans le cadre des politiques départementales d'aide aux communes, mais aussi du chantier de la route de Morillon, soit la RD14E1. Le département a financé ces aménagements à hauteur de 24 700 euros.
Bordeaux. Paul Bert prend de l'altitude. Un jardin d'altitude en plein Bordeaux ? Outre une vue imprenable sur la ville, cette initiative du réseau Paul Bert permet aux habitants du quartier d'expérimenter l'écologie appliquée à l'agriculture avec succès. Une audace qui vaut au réseau d'être distingué par un trophée Agenda 21 du département.
Depuis 2013, d'étranges colocataires ont rejoint le toit de l'immeuble du réseau Paul Bert, derrière le musée d'Aquitaine, à Bordeaux. Des abeilles, mais aussi des poules pour lutter contre le frelon asiatique, ennemi naturel de nos faiseuses de miel. En 2016, un jardin participatif voit le jour. Le réseau Paul Bert accueille des personnes en grande précarité, une quarantaine de nationalités différentes, et les accompagne dans leur insertion. Associé aux centres sociaux de la ville, il incite à la rencontre entre ses résidents et les Bordelais. Au fil des apports de population, le jardin suspendu vit aussi bien par les plantes cultivées que grâce à l'animation qu'il engendre. Ateliers d'apiculture, visites d'espaces protégés, ou même installation de ruches et de poulaillers chez des particuliers. Un labo bio à ciel ouvert, véritable laboratoire d'expérimentation, le jardin à ciel ouvert met en œuvre ce que l'on appelle la permaculture, c'est-à-dire une agriculture raisonnée, peu gourmande en eau, prenant en compte les besoins et les objectifs des utilisateurs locaux. Des partenariats se nouent avec les écoles via la création de livrets et autres panneaux pédagogiques. En effet, les acteurs du réseau ont la volonté permanente de transmettre et de diffuser leurs connaissances. La production annuelle de miel et de propolis est vendue lors des journées pêle-miel. Celle d'œufs et de légumes sert à la brasserie du centre social avec l'objectif d'aller vers une forme d'autonomie alimentaire. L'un des grands axes du département en matière de développement durable. C'est la raison pour laquelle le réseau Paul Bert vient d'obtenir le trophée Agenda 21. Par la mise en commun des savoirs, mais aussi par ses pratiques, le réseau Paul Bert parvient à conjuguer dans l'organisation de son jardin le mieux vivre ensemble et la consommation de produits bio et surtout entièrement locaux.
Cet article est illustré d'une photographie du jardin potager entrepris par le réseau Paul Bert au sommet de son immeuble. Bordeaux. Paul Bert prend de l'altitude. Un jardin d'altitude en plein Bordeaux ? Outre une vue imprenable sur la ville, cette initiative du réseau Paul Bert permet aux habitants du quartier d'expérimenter l'écologie appliquée à l'agriculture avec succès. Une audace qui vaut au réseau d'être distingué par un trophée Agenda 21 du département.
Depuis 2013, d'étranges colocataires ont rejoint le toit de l'immeuble du réseau Paul Bert, derrière le musée d'Aquitaine, à Bordeaux. Des abeilles, mais aussi des poules pour lutter contre le frelon asiatique, ennemi naturel de nos faiseuses de miel. En 2016, un jardin participatif voit le jour. Le réseau Paul Bert accueille des personnes en grande précarité, une quarantaine de nationalités différentes, et les accompagne dans leur insertion. Associé aux centres sociaux de la ville, il incite à la rencontre entre ses résidents et les Bordelais. Au fil des apports de population, le jardin suspendu vit aussi bien par les plantes cultivées que grâce à l'animation qu'il engendre. Ateliers d'apiculture, visites d'espaces protégés, ou même installation de ruches et de poulaillers chez des particuliers. Un labo bio à ciel ouvert, véritable laboratoire d'expérimentation, le jardin à ciel ouvert met en œuvre ce que l'on appelle la permaculture, c'est-à-dire une agriculture raisonnée, peu gourmande en eau, prenant en compte les besoins et les objectifs des utilisateurs locaux. Des partenariats se nouent avec les écoles via la création de livrets et autres panneaux pédagogiques. En effet, les acteurs du réseau ont la volonté permanente de transmettre et de diffuser leurs connaissances. La production annuelle de miel et de propolis est vendue lors des journées pêle-miel. Celle d'œufs et de légumes sert à la brasserie du centre social avec l'objectif d'aller vers une forme d'autonomie alimentaire. L'un des grands axes du département en matière de développement durable. C'est la raison pour laquelle le réseau Paul Bert vient d'obtenir le trophée Agenda 21. Par la mise en commun des savoirs, mais aussi par ses pratiques, le réseau Paul Bert parvient à conjuguer dans l'organisation de son jardin le mieux vivre ensemble et la consommation de produits bio et surtout entièrement locaux.
Cet article est illustré d'une photographie du jardin potager entrepris par le réseau Paul Bert au sommet de son immeuble.
Quelques chiffres. Aménagement du toit terrasse commencé en janvier 2016, 6 ruches, 5 poules, 6 carrés potagers, 180 kg de miel extrait en moyenne par an, 9 logements d'habitat solidaire, https://facebook.com/réseau.bert. 16 septembre, inauguration d'un nouveau drive fermier, 55 rue Lacornet à Bordeaux. 12 000 euros ont été consacrés par le département au lancement global de l'opération Drive Fermier. Rappelons que la Gironde est le leader des départements en matière de circuits courts avec près de 4 000 producteurs-vendeurs directs. Quelques chiffres. Aménagement du toit terrasse commencé en janvier 2016. 6 ruches, 5 poules, 6 carrés potagers, 180 kg de miel extrait en moyenne par an, 9 logements d'habitat solidaire, https://facebook.com/réseau.bert. 16 septembre, inauguration d'un nouveau drive fermier, 55 rue Lacornet à Bordeaux. 12 000 euros ont été consacrés par le département au lancement global de l'opération Drive Fermier. Rappelons que la Gironde est le leader des départements en matière de circuits courts avec près de 4 000 producteurs-vendeurs directs.
Grave, rock et chanson, la musique autrement. Avec aujourd'hui 32 ans d'existence, l'association Rock et chanson, présidée par Jean-Michel Stutter, installée à Talence, a su s'imposer comme un acteur majeur du territoire avec pour action principale l'accès et l'éveil à la musique.
À Rock et Chanson, il est d'abord question de musiques actuelles et de pratiques professionnelles autant qu'amatrices. Musiciens aguerris et débutants s'y côtoient jusque sur scène. À Rock et Chanson, véritable relais et partenaire culturel local, on y expérimente, on s'y exerce avec enthousiasme et en toute liberté. Le public regroupe une population très large. Jeunes, enfants, dont des classes d'alphabétisation, personnes âgées ou handicapées, etc. À travers différents projets, tous peuvent se retrouver autour d'une écoute et d'un apprentissage de la musique. Rock et chanson, notamment avec sa salle de spectacle, l'Antirouille, a pourtant le goût de l'exigence, faisant découvrir et émerger les jeunes talents, créant de nombreux projets artistiques ambitieux, là encore, qu'ils soient pro ou amateurs. Il s'agit de proposer aux spectateurs comme aux artistes une approche différente de la musique. Pôle de ressources. Ce vecteur universel d'émotion devient le ciment de nombreux partenariats. Avec les laboratoires de recherche pour donner à écouter des notes ou des vibrations à ceux qui en sont physiquement incapables et pour rendre accessibles des usages musicaux supposés élitistes. Outre la diffusion du savoir, des pratiques et de la musique en général, Rock et chanson est un véritable pôle de ressources pour tous les habitants. Matériel de répétition, instruments, studios d'enregistrement ou salles insonorisées y sont à disposition. Mais c'est aussi faire partager la culture. L'épanouissement et un art de vivre différent qui occupent cette équipe au travers d'ateliers mixtes où tous peuvent apprécier, lors d'une écoute active, un concert d'un des artistes en compagnonnage.
Grave, rock et chanson, la musique autrement. Avec aujourd'hui 32 ans d'existence, l'association Rock et chanson, présidée par Jean-Michel Stutter, installée à Talence, a su s'imposer comme un acteur majeur du territoire avec pour action principale l'accès et l'éveil à la musique.
À Rock et Chanson, il est d'abord question de musiques actuelles et de pratiques professionnelles autant qu'amatrices. Musiciens aguerris et débutants s'y côtoient jusque sur scène. À Rock et Chanson, véritable relais et partenaire culturel local, on y expérimente, on s'y exerce avec enthousiasme et en toute liberté. Le public regroupe une population très large. Jeunes, enfants, dont des classes d'alphabétisation, personnes âgées ou handicapées, etc. À travers différents projets, tous peuvent se retrouver autour d'une écoute et d'un apprentissage de la musique. Rock et Chanson, notamment avec sa salle de spectacle, l'Antirouille, a pourtant le goût de l'exigence, faisant découvrir et émerger les jeunes talents, créant de nombreux projets artistiques ambitieux, là encore, qu'ils soient pro ou amateurs. Il s'agit de proposer aux spectateurs comme aux artistes une approche différente de la musique. Pôle de ressources. Ce vecteur universel d'émotion devient le ciment de nombreux partenariats. Avec les laboratoires de recherche pour donner à écouter des notes ou des vibrations à ceux qui en sont physiquement incapables, et pour rendre accessibles des usages musicaux supposés élitistes. Outre la diffusion du savoir, des pratiques et de la musique en général, Rock et Chanson est un véritable pôle de ressources pour tous les habitants. Matériel de répétition, instruments, studios d'enregistrement ou salles insonorisées y sont à disposition. Mais c'est aussi faire partager la culture. L'épanouissement et un art de vivre différent qui occupent cette équipe au travers d'ateliers mixtes où tous peuvent apprécier, lors d'une écoute active, un concert d'un des artistes en compagnonnage.
Quelques chiffres. 32 ans d'existence, 60 parcours d'accompagnement scolaire, plus de 450 groupes à l'année, une salle de spectacle, l'Antirouille, de 180 places, 8 salles de répétition, un studio d'enregistrement, 17 salariés, plus de 2000 adhérents annuels, dont 600 sur des activités récurrentes, 57 000 visites en 2015-2016, 1 à 2 groupes en compagnonnage par an.
Aide du département, fonctionnement, apprentissage artistique et culturel pour 2016, 26 300 euros.
13 octobre, les élèves du collège Noès de Pessac ont rencontré Romain Noble et Damien Tocatian, médaillés d'or et de bronze des Jeux paralympiques de Rio. Le département met ainsi à l'honneur les collégiens qui se sont mobilisés avec leurs professeurs pour soutenir les champions durant les JO. 13 établissements ont été concernés par l'opération autour des Jeux paralympiques, soit 7500 collégiens. Quelques chiffres. 32 ans d'existence, 60 parcours d'accompagnement scolaire, plus de 450 groupes à l'année, une salle de spectacle, l'Antirouille, de 180 places, 8 salles de répétition, un studio d'enregistrement, 17 salariés, plus de 2000 adhérents annuels, dont 600 sur des activités récurrentes, 57 000 visites en 2015-2016, 1 à 2 groupes en compagnonnage par an.
Aide du département, fonctionnement, apprentissage artistique et culturel pour 2016, 26 300 euros.
13 octobre, les élèves du collège Noès de Pessac ont rencontré Romain Noble et Damien Tocatian, médaillés d'or et de bronze des Jeux paralympiques de Rio. Le département met ainsi à l'honneur les collégiens qui se sont mobilisés avec leurs professeurs pour soutenir les champions durant les JO. 13 établissements ont été concernés par l'opération autour des Jeux paralympiques, soit 7500 collégiens.
Sud Gironde, Uzest d'Audace. Érigée sur les fondations d'une ancienne bâtisse, la propriété coopérative d'habitants d'Uzest ouvre la voie en Sud Gironde. Pionnier en la matière, le collectif vient d'être récompensé par le département pour son initiative innovante.
L'histoire n'est pas si marginale, mais elle est quelque peu singulière dans la campagne uzestoise. Voici trois familles, soit 6 adultes et 5 enfants, qui ont lancé leur projet d'habitat participatif, une tentative dont nul ne pouvait prédire le succès. Pourtant, ce collectif est animé de la volonté, sans faille, de concevoir un mode d'habitat différent. Cet art de vivre repose sur le partage et repose sur des expérimentations locales de groupements d'achat et de pratiques participatives. Le pari est, au-delà, de créer un mode de copropriété s'inscrivant également dans une démarche écologique. Pour Lucille Hugon, habitant sur place, le bien vivre ensemble n'est pas une utopie, mais une réalité bien tangible. Le socle du projet est d'acheter un ensemble de biens, de terrains, dans le but d'y installer 3 habitats écologiques et une micro-ferme en permaculture. Ensuite, nous voulons accueillir des activités économiques et culturelles, des associations, des débats et des sessions de réflexion, tout en proposant des formations en agriculture raisonnée et en coopérative d'habitants. Fin de citation. Un trophée de bâtisseur. Ce programme et projet, qui a fait l'objet d'une thèse d'architecture, a dernièrement été récompensé par le département de la Gironde, lauréat des trophées de l'Agenda 21. Nous avons reçu le prix coup de cœur le 18 novembre dernier. Ce fut un plaisir et c'est très important pour nous d'avoir un label institutionnel, explique Lucille Hugon. Cela crédibilise cette démarche qui relève d'une conception de vie différente et vise à promouvoir aussi l'habitat participatif. Faisant fi des préjugés ou de l'image bobo du projet, pas toujours bien assimilé culturellement, le collectif du Zest défend un mode de vie alternatif, aux antipodes de la société du gaspillage, histoire aussi de prouver et montrer que rien n'est irréversible quand on fait des efforts.
Sud Gironde, Uzest d'audace. Érigée sur les fondations d'une ancienne bâtisse, la propriété coopérative d'habitants d'Uzest ouvre la voie en Sud-Gironde. Pionnier en la matière, le collectif vient d'être récompensé par le département pour son initiative innovante.
L'histoire n'est pas si marginale, mais elle est quelque peu singulière dans la campagne uzestoise. Voici 3 familles, soit 6 adultes et 5 enfants, qui ont lancé leur projet d'habitat participatif. Une tentative dont nul ne pouvait prédire le succès. Pourtant, ce collectif est animé de la volonté, sans faille, de concevoir un mode d'habitat différent. Cet art de vivre repose sur le partage et repose sur des expérimentations locales de groupements d'achat et de pratiques participatives. Le pari est, au-delà, de créer un mode de copropriété s'inscrivant également dans une démarche écologique. Pour Lucille Hugon, habitant sur place, le bien vivre ensemble n'est pas une utopie, mais une réalité bien tangible. Le socle du projet est d'acheter un ensemble de biens, de terrains, dans le but d'y installer 3 habitats écologiques et une micro-ferme en permaculture. Ensuite, nous voulons accueillir des activités économiques et culturelles, des associations, des débats et des sessions de réflexion, tout en proposant des formations en agriculture raisonnée et en coopérative d'habitants. Fin de citation. Un trophée de bâtisseur. Ce programme et projet, qui a fait l'objet d'une thèse d'architecture, a dernièrement été récompensé par le département de la Gironde, lauréat des trophées de l'Agenda 21. Nous avons reçu le prix coup de cœur le 18 novembre dernier. Ce fut un plaisir et c'est très important pour nous d'avoir un label institutionnel, explique Lucille Hugon. Cela crédibilise cette démarche qui relève d'une conception de vie différente et vise à promouvoir aussi l'habitat participatif. Faisant fi des préjugés ou de l'image bobo du projet, pas toujours bien assimilé culturellement, le collectif du Zest défend un mode de vie alternatif, aux antipodes de la société du gaspillage, histoire aussi de prouver et montrer que rien n'est irréversible quand on fait des efforts.
24 octobre, pose de la première pierre de l'établissement pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes, EHPAD, l'Érial de Biron à Capcieux. Le site regroupera 80 places. Le département, qui s'est aussi porté caution sur l'emprunt contracté, finance le projet à hauteur de 200 000 euros. 24 octobre, pose de la première pierre de l'établissement pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes, EHPAD, l'Érial de Biron à Capcieux. Le site regroupera 80 places. Le département, qui s'est aussi porté caution sur l'emprunt contracté, finance le projet à hauteur de 200 000 euros.
Force solidaire. Force solidaire. À l'abri dans nos maisons. Les États généraux de la protection de l'enfance se sont tenus à Bordeaux en novembre dernier. Voilà l'occasion de mettre en lumière les maisons d'enfants à caractère social, MECS, prononcé MEX, établissement financé par le conseil départemental et géré par des associations où vivent des enfants de 3 à 21 ans, confiés au département en raison de problèmes familiaux. Des équipes éducatives les entourent et les accompagnent en sécurité et sérénité, en attendant un possible retour chez eux.
Protéger les enfants. La loi du 5 mars 2007 a confirmé la responsabilité des départements dans la prise en charge des enfants mineurs confiés. Parmi les fausses représentations que l'on se fait de ces jeunes qui vivent en foyer, persiste l'image d'enfants à problème. En réalité, ce sont leurs parents qui rencontrent des difficultés à tenir leur rôle. Bernard Capdepuis, directeur des MEX situés à Podensac et Langon, explique le contexte. Plusieurs situations existent. Des parents font le constat de leurs incapacités et demandent un coup de main. Le conseil départemental évalue et propose un placement provisoire. Les parents restent acteurs de la situation, travaillent en commun avec les éducateurs et, comme principal objectif, que l'enfant rentre dans sa famille au plus vite. Pendant le temps où il demeure au sein de la MEX, il est aidé, poursuit sa scolarité, retrouve un équilibre. Autre situation, les parents mettent leur enfant en danger et le placement de l'enfant est exigé par la justice, qu'il soit d'accord ou non. Dans les deux cas, l'équipe éducative des MEX collabore avec les parents. La vie quotidienne. À Podensac, les enfants sont rassemblés par groupes de 10 environ, dans une petite maison, chacun disposant d'une chambre individuelle. Les éducateurs, la maîtresse de maison, le veilleur de nuit, assurent une présence permanente. Telle une vie de famille, les journées sont rythmées. Lever, école, cantine, école, retour, goûter, devoir, activité, repas, coucher. Les priorités sont la scolarité et l'éveil. Selon l'âge et l'envie, ils pratiquent des activités collectives ou individuelles. Le week-end, quand c'est possible, ils rentrent dans leur famille. Le directeur précise « Un nombre important reste, les mineurs sans papier et ceux dont les parents ne sont pas assez sécurisants, voire maltraitants. On essaie de trouver des familles d'accueil, des prises en charge assurées par des assistants familiaux salariés et agréés par le conseil départemental. À Langon, Bernard Capdepuis gère aussi une annexe avec 6 jeunes, ainsi que des chambres en ville. Un apprentissage accompagné de l'autonomie. Il s'agit bien aussi de permettre à ces adolescents de passer à l'âge adulte le moins difficilement possible. Un souffle d'air. Pour favoriser l'accès à la culture, le département a favorisé la pratique d'ateliers, puis a initié, avec l'appui de l'IDAC, Agence de diffusion culturelle de la Gironde, de véritables projets artistiques au sein des MEX. À Podensac, les jeunes ont élaboré un guide culinaire, pétillant et plein d'astuces. Créé avec l'artiste culinaire Enora Lallet, les illustrations des recettes sont pour le moins originales. Actuellement, un groupe travaille avec un photographe plasticien, Benoît Carry, à la réalisation d'une fresque sur les façades de leur lieu de vie. À Arcachon, Patrick Garcia, directeur de la MEX du Moulot, confirme l'intérêt de ces projets. C'est l'opportunité d'un appel d'air, aussi pour les équipes éducatives. Pour lui, la revalorisation du métier d'éducateur, qui implique ce genre d'investissement personnel, s'avère importante. Le métier a évolué, il est en relation avec les enfants, mais également les parents, les services sociaux, l'éducation nationale. Les modèles éducatifs ont bougé. L'important est de maintenir la vitalité de l'équipe éducative, se cultiver, réfléchir ensemble, se documenter, trouver une réponse pour chaque enfant. Personne ne doit rester au bord du chemin. Au Moulot, les enfants et les ados ont partagé le monde de l'artiste Anne-Laure Boyer. Un calendrier pictural relate les étapes de ce travail collectif mené autour de chambres cabanes et de l'identité. Faire entrer l'art dans la maison nécessite de donner une place à ses visiteurs artistes. Une petite révolution, souligne Patrick Garcia. Au début, il fallait que chacun s'apprivoise. Aujourd'hui, tous les établissements participent. Il revient sur les a priori. Il faut savoir bâtir des images positives en communiquant auprès des voisins, des écoles. Les projets artistiques peuvent aider. Ces enfants ont des problèmes familiaux, c'est-à-dire qu'ils ont subi des défaillances familiales. Mais notre vocation, celle des MEX, c'est aussi de prouver qu'ils ont beaucoup à apporter autour d'eux. Avec la nouvelle loi du 14 mars 2016, une réflexion a été enclenchée concernant les politiques de protection de l'enfance. Ainsi, les premières pistes de réflexion du nouveau schéma départemental voient le jour. Une volonté forte de repérer les situations potentielles de danger. Au cœur des actions, protéger les droits et mettre l'enfant au centre des besoins spécifiques qui les concernent directement. Enfin, il s'agit d'accompagner les jeunes à la vie autonome en s'ouvrant sur de nouveaux partenaires.
Vous voulez devenir assistant ou assistante familiaux ? gironde.fr/assistant-familial.
À l'abri dans nos maisons. Les États généraux de la protection de l'enfance se sont tenus à Bordeaux en novembre dernier. Voilà l'occasion de mettre en lumière les maisons d'enfants à caractère social, MECS, prononcé MEX, établissements financés par le conseil départemental et gérés par des associations où vivent des enfants de 3 à 21 ans, confiés au département en raison de problèmes familiaux. Des équipes éducatives les entourent et les accompagnent en sécurité et sérénité, en attendant un possible retour chez eux.
Protéger les enfants. La loi du 5 mars 2007 a confirmé la responsabilité des départements dans la prise en charge des enfants mineurs confiés. Parmi les fausses représentations que l'on se fait de ces jeunes qui vivent en foyer, persiste l'image d'enfants à problème. En réalité, ce sont leurs parents qui rencontrent des difficultés à tenir leur rôle. Bernard Capdepuy, directeur des MEX situés à Podensac et Langon, explique le contexte. Plusieurs situations existent. Des parents font le constat de leurs incapacités et demandent un coup de main. Le conseil départemental évalue et propose un placement provisoire. Les parents restent acteurs de la situation, travaillent en commun avec les éducateurs et, comme principal objectif, que l'enfant rentre dans sa famille au plus vite. Pendant le temps où il demeure au sein de la MEX, il est aidé, poursuit sa scolarité, retrouve un équilibre. Autre situation, les parents mettent leur enfant en danger et le placement de l'enfant est exigé par la justice, qu'il soit d'accord ou non. Dans les deux cas, l'équipe éducative des MEX collabore avec les parents. La vie quotidienne. À Podensac, les enfants seront rassemblés par groupes de 10 environ, dans une petite maison, chacun disposant d'une chambre individuelle. Les éducateurs, la maîtresse de maison, le veilleur de nuit, assurent une présence permanente. Telle une vie de famille, les journées sont rythmées. Lever, école, cantine, école, retour, goûter, devoir, activité, repas, coucher. Les priorités sont la scolarité et l'éveil. Selon l'âge et l'envie, ils pratiquent des activités collectives ou individuelles. Le week-end, quand c'est possible, ils rentrent dans leur famille. Le directeur précise « Un nombre important reste, les mineurs sans papier et ceux dont les parents ne sont pas assez sécurisants, voire maltraitants. On essaie de trouver des familles d'accueil, des prises en charge assurées par des assistants familiaux salariés et agréés par le conseil départemental. À Langon, Bernard Capdepuy gère aussi une annexe avec 6 jeunes, ainsi que des chambres en ville. Un apprentissage accompagné de l'autonomie. Il s'agit bien aussi de permettre à ces adolescents de passer à l'âge adulte le moins difficilement possible. Un souffle d'air. Pour favoriser l'accès à la culture, le département a favorisé la pratique d'ateliers, puis a initié, avec l'appui de l'IDAC, Agence de diffusion culturelle de la Gironde, de véritables projets artistiques au sein des MEX. À Podensac, les jeunes ont élaboré un guide culinaire pétillant et plein d'astuces. Créé avec l'artiste culinaire Enora Lallet, les illustrations des recettes sont pour le moins originales. Actuellement, un groupe travaille avec un photographe plasticien, Benoît Carry, à la réalisation d'une fresque sur les façades de leur lieu de vie. À Arcachon, Patrick Garcia, directeur de la MEX du Moulot, confirme l'intérêt de ces projets. C'est l'opportunité d'un appel d'air, aussi pour les équipes éducatives. Pour lui, la revalorisation du métier d'éducateur, qui implique ce genre d'investissement personnel, s'avère importante. Le métier a évolué, il est en relation avec les enfants, mais également les parents, les services sociaux, l'éducation nationale. Les modèles éducatifs ont bougé. L'important est de maintenir la vitalité de l'équipe éducative, se cultiver, réfléchir ensemble, se documenter, trouver une réponse pour chaque enfant. Personne ne doit rester au bord du chemin. Au Moulot, les enfants et les ados ont partagé le monde de l'artiste Anne-Laure Boyer. Un calendrier pictural relate les étapes de ce travail collectif mené autour de chambres-cabanes et de l'identité. Faire entrer l'art dans la maison nécessite de donner une place à ses visiteurs-artistes. Une petite révolution, souligne Patrick Garcia. Au début, il fallait que chacun s'apprivoise. Aujourd'hui, tous les établissements participent. Il revient sur les a priori. Il faut savoir bâtir des images positives en communiquant auprès des voisins, des écoles. Les projets artistiques peuvent aider. Ces enfants ont des problèmes familiaux, c'est-à-dire qu'ils ont subi des défaillances familiales. Mais notre vocation, celle des MEX, c'est aussi de prouver qu'ils ont beaucoup à apporter autour d'eux. Avec la nouvelle loi du 14 mars 2016, une réflexion a été enclenchée concernant les politiques de protection de l'enfance. Ainsi, les premières pistes de réflexion du nouveau schéma départemental voient le jour. Une volonté forte de repérer les situations potentielles de danger. Au cœur des actions, protéger les droits et mettre l'enfant au centre des besoins spécifiques qui les concernent directement. Enfin, il s'agit d'accompagner les jeunes à la vie autonome en s'ouvrant sur de nouveaux partenaires.
Vous voulez devenir assistant ou assistante familiaux ? gironde.fr/assistant-familial. Flash, 22 MEX en Gironde, un centre départemental de l'enfance et de la famille, 800 assistants familiaux, famille d'accueil, 3700 enfants confiés au président du département. Flash, 22 MEX en Gironde, un centre départemental de l'enfance et de la famille, 800 assistants familiaux, famille d'accueil, 3700 enfants confiés au président du département.
Point de vue d'Emmanuelle Ajon, vice-présidente chargée de la promotion de la santé et protection de l'enfance.
Les maisons d'enfants à caractère social répondent à notre volonté de prendre en compte les besoins particuliers et nouveaux des enfants dont nous sommes responsables. Le développement des capacités d'accueil, la diversification de la prise en charge et la création de services innovants, possibles par le résultat de l'excellent travail des équipes de terrain. Celles des MEX en sont une parfaite illustration.
Point de vue d'Emmanuelle Ajon, vice-présidente chargée de la promotion de la santé et protection de l'enfance.
Les maisons d'enfants à caractère social répondent à notre volonté de prendre en compte les besoins particuliers et nouveaux des enfants dont nous sommes responsables. Le développement des capacités d'accueil, la diversification de la prise en charge et la création de services innovants, possibles par le résultat de l'excellent travail des équipes de terrain. Celles des MEX en sont une parfaite illustration.
Ostens, accueillir, échanger, partager. Le 2 novembre, il est 23h30 quand l'autocar s'arrête dans une allée du domaine départemental de loisirs Gérard Lagorce à Ostens. 36 garçons mineurs en descendent. Originaires du Soudan et de Somalie, ils arrivent tout droit de la jungle de Calais. Depuis, la vie s'est organisée pour apporter à ces jeunes réconfort et chaleur humaine en attendant leur départ pour la Grande-Bretagne, peut-être,
Dès la mi-octobre, alors que s'annonçait l'évacuation de la jungle de Calais, le président du conseil départemental, Jean-Luc Glaise, avait été clair. Lors de sa conférence de presse de rentrée, il déclarait ainsi « Nous prendrons notre part, la Gironde sera terre d'accueil. Cela représente une part infime de la population, 0,0002%, ou encore « L'asile est un droit et nous devons instruire les dossiers avec humanité et dignité. » Depuis, passé les polémiques et les premières réticences, 300 migrants ont été reçus dans plusieurs communes girondines. De son côté, suite à la sollicitation du préfet Pierre Dartout, le département a accueilli 36 garçons mineurs sur la base de loisirs d'Osnas. Les filles de moins de 18 ans ont été installées, elles, à Arès. Deux associations se sont vues confier ces jeunes, originaires du Soudan et de la Somalie, et une semaine après leur installation ont été chargées de la coordination sur le site. France Horizon, dont le credo est « Une place pour tous, une chance pour chacun » et Rénovation, rompu à travailler avec des mineurs isolés. À leur côté, le personnel départemental, animateurs, cuisinières et équipes administratives ont fait preuve d'une mobilisation immédiate pour entourer leurs hôtes. Une vraie vie de famille. Caroline Caram pour France Horizon et Sabine Caverne-Geichis pour Rénovation veillent à apporter aux jeunes migrants une attention de tous les instants. Sabine raconte. Quand ils sont arrivés le 2 novembre, il était 23h30. On m'a rapporté qu'ils sont descendus du car fatigués et un peu perdus. Certains étaient vêtus d'un t-shirt et d'un short pour ne pas oublier la manière dont ils étaient habillés chez eux. À Calais, ces mineurs isolés étaient livrés à eux-mêmes. Ils étaient perturbés d'être regroupés finalement loin de l'Angleterre. C'est en Grande-Bretagne qu'ils aspirent à retrouver leur famille, leurs parents. La vie s'organise peu à peu et les jeunes sortent de leur isolement. Ils apprennent à se connaître et à échanger avec Caroline et deux animateurs sur place qui traduisent de l'arabe au français ou inversement les premiers mots puis d'authentiques conversations. Les adolescents intègrent les rudiments de l'anglais et du français grâce à des bénévoles qui offrent leur temps tous les soirs, s'adaptant aux demandes et aux attentes. Les jeunes habitants du site jouent au football, participent à des soirées musicales et festives, sont conduits régulièrement à Bordeaux. Ils s'impliquent dans les tâches quotidiennes et concoctent avec les cuisinières Stéphanie et Sylvie des plats de leur pays d'origine. Nous vivons comme une famille avec ses règles, ses débats et ses obligations, mais aussi ses très forts moments d'émotion, commente Sabine. L'accueil des habitants a été des plus chaleureux. Spontanément, un collectif destiné à recevoir au mieux les nouveaux arrivants se forme. Les uns apportent des vêtements et des cadeaux, d'autres proposent leur aide pour les diverses activités du site. Jean-Louis Dartiaille, maire d'Ostens, ajoute « C'est une très belle expérience humaine, je n'ai qu'un regret, c'est que ces jeunes ne puissent pas s'intégrer davantage dans la vie de la commune. Le rêve de l'Angleterre. » Un jour de novembre, après l'une des visites de l'équipe du Home Office britannique, venue vérifier l'identité et les dossiers des jeunes, Caroline reçoit un message. 15 mineurs doivent le soir même prendre l'avion à Toulouse, direction la Grande-Bretagne. Un 16e les rejoindra plus tard. Caroline doit se charger de la partie administrative à la préfecture, tandis que Sabine, deux éducateurs de France Horizon et quatre de Rénovation, organisent le départ à la hâte. Au bonheur des partants, se mêle la grande tristesse de ceux qui restent. Sabine tient à préciser. Malgré la précipitation, les jeunes sont partis dans une grande dignité, sans trop manifester leur joie. Le plus dur, c'est après, pour ceux qui restent, particulièrement les soirées et les nuits où il faut être à l'écoute de la détresse des plus fragiles. Il nous faut parler et écouter beaucoup. C'est une disponibilité exigée 24 heures sur 24. À l'heure où sont écrites ces lignes, 12 mineurs vivent toujours à Ostens. Pour autant, si des liens avec une éventuelle famille ne peuvent être prouvés, les jeunes resteront en Gironde et seront placés en tant que mineurs isolés sous la responsabilité directe du président du conseil départemental. Pour l'instant, sous le soleil hivernal d'Ostens, la vie d'une belle et singulière famille s'organise, où chacun apprend à se connaître et à s'apprivoiser autour du café, devenu un rituel à suivre.
Cet article est illustré de la photo d'un regard souriant et confiant entre une girondine et un jeune migrant. Au-dessus, cette phrase, c'est une très belle expérience humaine. L'enrichissement mutuel est évident. Ostens, accueillir, échanger, partager. Le 2 novembre, il est 23h30 quand l'autocar s'arrête dans une allée du domaine départemental de loisirs Gérard Lagorce à Ostens. 36 garçons mineurs en descendent. Originaires du Soudan et de Somalie, ils arrivent tout droit de la jungle de Calais. Depuis, la vie s'est organisée pour apporter à ces jeunes réconfort et chaleur humaine en attendant leur départ pour la Grande-Bretagne, peut-être.
Dès la mi-octobre, alors que s'annonçait l'évacuation de la jungle de Calais, le président du conseil départemental, Jean-Luc Glaise, avait été clair. Lors de sa conférence de presse de rentrée, il déclarait ainsi « Nous prendrons notre part, la Gironde sera terre d'accueil. Cela représente une part infime de la population, 0,0002%, ou encore « L'asile est un droit et nous devons instruire les dossiers avec humanité et dignité. » Depuis, passé les polémiques et les premières réticences, 300 migrants ont été reçus dans plusieurs communes girondines. De son côté, suite à la sollicitation du préfet Pierre Dartout, le département a accueilli 36 garçons mineurs sur la base de loisirs d'Ostens. Les filles de moins de 18 ans ont été installées, elles, à Arès. Deux associations se sont vues confier ces jeunes, originaires du Soudan et de la Somalie, et une semaine après leur installation, ont été chargés de la coordination sur le site. France Horizon, dont le credo est « Une place pour tous, une chance pour chacun » et Rénovation, rompue à travailler avec des mineurs isolés. À leur côté, le personnel départemental, animateurs, cuisinières et équipes administratives ont fait preuve d'une mobilisation immédiate pour entourer leurs hôtes. Une vraie vie de famille. Caroline Caram pour France Horizon et Sabine Caverne-Geichis pour Rénovation veillent à apporter aux jeunes migrants une attention de tous les instants. Sabine raconte. Quand ils sont arrivés le 2 novembre, il était 23h30. On m'a rapporté qu'ils sont descendus du car fatigués et un peu perdus. Certains étaient vêtus d'un t-shirt et d'un short pour ne pas oublier la manière dont ils étaient habillés chez eux. À Calais, ces mineurs isolés étaient livrés à eux-mêmes. Ils étaient perturbés d'être regroupés finalement loin de l'Angleterre. C'est en Grande-Bretagne qu'ils aspirent à retrouver leur famille, leurs parents. La vie s'organise peu à peu et les jeunes sortent de leur isolement. Ils apprennent à se connaître et à échanger avec Caroline et deux animateurs sur place qui traduisent de l'arabe au français ou inversement les premiers mots puis d'authentiques conversations. Les adolescents intègrent les rudiments de l'anglais et du français grâce à des bénévoles qui offrent leur temps tous les soirs, s'adaptant aux demandes et aux attentes. Les jeunes habitants du site jouent au football, participent à des soirées musicales et festives, sont conduits régulièrement à Bordeaux. Ils s'impliquent dans les tâches quotidiennes et concoctent avec les cuisinières Stéphanie et Sylvie des plats de leur pays d'origine. Nous vivons comme une famille avec ses règles, ses débats et ses obligations, mais aussi ses très forts moments d'émotion, commente Sabine. L'accueil des habitants a été des plus chaleureux. Spontanément, un collectif destiné à recevoir au mieux les nouveaux arrivants se forme. Les uns apportent des vêtements et des cadeaux, d'autres proposent leur aide pour les diverses activités du site. Jean-Louis Dartiaille, maire d'Ostens, ajoute « C'est une très belle expérience humaine, je n'ai qu'un regret, c'est que ces jeunes ne puissent pas s'intégrer davantage dans la vie de la commune. Le rêve de l'Angleterre. » Un jour de novembre, après l'une des visites de l'équipe du Home Office britannique, venue vérifier l'identité et les dossiers des jeunes, Caroline reçoit un message. 15 mineurs doivent le soir même prendre l'avion à Toulouse, direction la Grande-Bretagne. Un 16e les rejoindra plus tard. Caroline doit se charger de la partie administrative à la préfecture, tandis que Sabine, deux éducateurs de France Horizon et quatre de Rénovation, organisent le départ à la hâte. Au bonheur des partants, se mêle la grande tristesse de ceux qui restent. Sabine tient à préciser. Malgré la précipitation, les jeunes sont partis dans une grande dignité, sans trop manifester leur joie. Le plus dur, c'est après, pour ceux qui restent, particulièrement les soirées et les nuits où il faut être à l'écoute de la détresse des plus fragiles. Il nous faut parler et écouter beaucoup. C'est une disponibilité exigée 24 heures sur 24. À l'heure où sont écrites ces lignes, 12 mineurs vivent toujours à Ostens. Pour autant, si des liens avec une éventuelle famille ne peuvent être prouvés, les jeunes resteront en Gironde et seront placés en tant que mineurs isolés, sous la responsabilité directe du président du conseil départemental. Pour l'instant, sous le soleil hivernal d'Ostens, la vie d'une belle et singulière famille s'organise où chacun apprend à se connaître et à s'apprivoiser autour du café, devenu un rituel à suivre.
Cet article est illustré de la photo d'un regard souriant et confiant entre une girondine et un jeune migrant. Au-dessus, cette phrase, c'est une très belle expérience humaine. L'enrichissement mutuel est évident. Point de vue de Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de la Gironde.
Gironde, terre d'accueil. Défi réussi. Accueillir ces populations en danger a été pour la Gironde un succès. Les locaux du domaine d'Ostens que nous avons mis à disposition ont permis de recevoir dignement ces jeunes qui avaient fui l'horreur de la guerre. L'entrain solidaire du maire et des habitants d'Ostens a beaucoup compté dans cette opération. Nous pouvons nous réjouir de cette action collective pleine d'humanisme.
Point de vue de Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de la Gironde.
Gironde, terre d'accueil. Défi réussi. Accueillir ces populations en danger a été pour la Gironde un succès. Les locaux du domaine d'Ostens que nous avons mis à disposition ont permis de recevoir dignement ces jeunes qui avaient fui l'horreur de la guerre. L'entrain solidaire du maire et des habitants d'Ostens a beaucoup compté dans cette opération. Nous pouvons nous réjouir de cette action collective pleine d'humanisme.
L'orchestre Demos, une aventure collective. Ils ont entre 7 et 12 ans, ils n'ont jamais joué d'un instrument de musique, ne sont pas familiers de Beethoven ou Verdi, et pourtant, ils se produiront au sein d'un orchestre au mois de mai prochain à l'Auditorium de Bordeaux. 120 enfants girondins participent au projet Demos, promu par la Philharmonie de Paris et fortement soutenu par le département afin de développer l'apprentissage de la musique.
Des cris, des chants, des notes de musique, la découverte. Demos, ou dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Voilà la dénomination d'une initiative lancée en 2010 en Île-de-France, dont l'objectif est d'initier de jeunes enfants des quartiers populaires à la musique classique. Après 6 années d'expérience, le projet connaît un développement national et est arrivé en Gironde pour la rentrée scolaire 2016-2017. En partenariat avec la Philharmonie de Paris et sous l'impulsion du chef d'orchestre Marc Minkowski, l'Opéra National de Bordeaux lance un orchestre Demos avec le soutien notamment du Conseil départemental de la Gironde, de Bordeaux Métropole et de la ville de Bordeaux, mais aussi la coopération des structures d'enseignement artistique et socio-culturel. Demos est destiné à des enfants de 7 à 12 ans vivant sur des territoires connaissant des difficultés sociales et économiques. Projet d'accessibilité aux pratiques culturelles et artistiques centrées sur la musique, il a pour philosophie de permettre aux plus jeunes de pratiquer un instrument dans un orchestre et de favoriser leur accès au répertoire classique. Durant 3 ans, les enfants du Sud Gironde et du Coutradet s'initieront à la flûte traversière et à la clarinette, ceux de Bouliac aux cuivres et percussions, tandis que les cours donnés à Bordeaux, Floirac et Gradignan seront tournés vers les cordes. Une pratique collective. Ce projet s'appuie sur un partenariat éducatif entre des musiciens et des travailleurs sociaux issus des structures à caractère social du territoire comme les maisons départementales de la solidarité et de l'insertion, MDSI. Demos propose un programme d'action extrêmement dense et exigeant. Axé sur une pédagogie collective, les enfants se retrouvent chaque semaine depuis octobre dernier au sein d'ateliers. Par groupe de 15, les enfants ont d'abord abordé la musique par la danse, puis le chant, qui tient une part importante dans leur formation, et enfin, la philharmonie leur a confié un instrument. Ainsi, ces jeunes découvrent la pratique musicale au travers d'une méthode innovante fondée sur l'ensemble. Toutes les 6 semaines, les 8 groupes accompagnés des musiciens et travailleurs sociaux se retrouvent à Bordeaux pour des répétitions d'orchestre complets sous la baguette du chef Julien Van Hout. Enfin, 2 sessions de 2 jours de stage axées sur l'orchestre, le chant et la danse sont organisées aux vacances de la Toussaint et d'avril. Le 20 mai prochain, les enfants se produiront pour la première fois sur scène à l'Auditorium de Bordeaux, un moment que les plus jeunes redoutent mais attendent avec impatience. Chaque orchestre Demos qui commence est une aventure
dont on ne connaît pas la fin. Ah, dans 3 ans.
Cette page est illustrée d'une photo du chef d'orchestre Julien Van Hout, dirigeant les jeunes de l'orchestre Demos. L'orchestre Demos, une aventure collective. Ils ont entre 7 et 12 ans, ils n'ont jamais joué d'un instrument de musique, ne sont pas familiers de Beethoven ou Verdi, et pourtant, ils se produiront au sein d'un orchestre au mois de mai prochain à l'Auditorium de Bordeaux. 120 enfants girondins participent au projet Demos, promu par la Philharmonie de Paris et fortement soutenu par le département afin de développer l'apprentissage de la musique.
Des cris, des chants, des notes de musique, la découverte. Demos, ou dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Voilà la dénomination d'une initiative lancée en 2010 en Île-de-France, dont l'objectif est d'initier de jeunes enfants des quartiers populaires à la musique classique. Après 6 années d'expérience, le projet connaît un développement national et est arrivé en Gironde pour la rentrée scolaire 2016-2017. En partenariat avec la Philharmonie de Paris et sous l'impulsion du chef d'orchestre Marc Minkowski, l'Opéra National de Bordeaux lance un orchestre Demos avec le soutien notamment du Conseil départemental de la Gironde, de Bordeaux Métropole et de la ville de Bordeaux, mais aussi la coopération des structures d'enseignement artistique et socio-culturel. Demos est destiné à des enfants de 7 à 12 ans vivant sur des territoires connaissant des difficultés sociales et économiques. Projet d'accessibilité aux pratiques culturelles et artistiques centrées sur la musique. Il a pour philosophie de permettre aux plus jeunes de pratiquer un instrument dans un orchestre et de favoriser leur accès au répertoire classique. Durant 3 ans, les enfants du Sud Gironde et du Coutradet s'initieront à la flûte traversière et à la clarinette, ceux de Bouliac aux cuivres et percussions, tandis que les cours donnés à Bordeaux, Floirac et Gradignan seront tournés vers les cordes. Une pratique collective. Ce projet s'appuie sur un partenariat éducatif entre des musiciens et des travailleurs sociaux issus des structures à caractère social du territoire comme les maisons départementales de la solidarité et de l'insertion, MDSI. Demos propose un programme d'action extrêmement dense et exigeant. Axé sur une pédagogie collective, les enfants se retrouvent chaque semaine, depuis octobre dernier, au sein d'ateliers. Par groupe de 15, les enfants ont d'abord abordé la musique par la danse, puis le chant, qui tient une part importante dans leur formation. Et enfin, la Philharmonie leur a confié un instrument. Ainsi, ces jeunes découvrent la pratique musicale au travers d'une méthode innovante fondée sur l'ensemble. Toutes les 6 semaines, les 8 groupes accompagnés des musiciens et travailleurs sociaux se retrouvent à Bordeaux pour des répétitions d'orchestre complets sous la baguette du chef Julien Van Hout. Enfin, 2 sessions de 2 jours de stage axées sur l'orchestre, le chant et la danse sont organisées aux vacances de la Toussaint et d'avril. Le 20 mai prochain, les enfants se produiront pour la première fois sur scène à l'Auditorium de Bordeaux, un moment que les plus jeunes redoutent mais attendent avec impatience. Chaque orchestre Demos qui commence est une aventure dont on ne connaît pas la fin. Ah, dans 3 ans.
Cette page est illustrée d'une photo du chef d'orchestre Julien Van Hout, dirigeant les jeunes de l'orchestre Demos. Témoignage. Éric Moncoucut, musicien et acteur.
Un projet qui allie le côté artistique et la dimension sociale ? De suite, j'ai eu envie de participer à l'aventure, confie Éric Moncoucut, un des 3 musiciens qui interviennent à l'école de musique de Saint-Seurin-sur-l'Île. Certains enfants sont très introvertis, d'autres expansifs. C'est parfois difficile, mais ce sont des enfants très créatifs, très attachants. Et dans 3 ans, s'ils poursuivent la musique, tant mieux, mais ce n'est pas là le principal. Ils auront vécu un moment fort. Le plus important, c'est qu'ils prennent confiance en eux, développent une bonne estime d'eux-mêmes, s'épanouissent.
Témoignage. Éric Moncoucut, musicien et acteur.
Un projet qui allie le côté artistique et la dimension sociale ? De suite, j'ai eu envie de participer à l'aventure, confie Éric Moncoucut, un des 3 musiciens qui interviennent à l'école de musique de Saint-Seurin-sur-l'Île. Certains enfants sont très introvertis, d'autres expansifs. C'est parfois difficile, mais ce sont des enfants très créatifs, très attachants. Et dans 3 ans, s'ils poursuivent la musique, tant mieux, mais ce n'est pas là le principal. Ils auront vécu un moment fort. Le plus important, c'est qu'ils prennent confiance en eux, développent une bonne estime d'eux-mêmes, s'épanouissent.
Témoignage. Violaine Parfait, assistante sociale MDSI de Coutras.
À plein temps sur le projet Demos, Violaine Parfait, coordinatrice terrain, fait sa tournée 2 soirs par semaine. Je récupère 3 à 4 enfants pour les conduire à l'école de musique. Le Coutradé est vaste. On ne voulait pas que certains soient exclus du projet, faute de moyens de transport. Présente à toutes les répétitions, elle participe activement aux ateliers de chant, de danse et de pratique musicale. Des liens se tissent avec les enfants et une certaine connivence commence à naître entre travailleurs sociaux et musiciens. On a tous à cœur de porter ce dispositif.
Témoignage. Violaine Parfait, assistante sociale MDSI de Coutras.
À plein temps sur le projet Demos, Violaine Parfait, coordinatrice terrain, fait sa tournée 2 soirs par semaine. Je récupère 3 à 4 enfants pour les conduire à l'école de musique. Le Coutradé est vaste. On ne voulait pas que certains soient exclus du projet, faute de moyens de transport. Présente à toutes les répétitions, elle participe activement aux ateliers de chant, de danse et de pratique musicale. Des liens se tissent avec les enfants et une certaine connivence commence à naître entre travailleurs sociaux et musiciens. On a tous à cœur de porter ce dispositif.
Témoignage. Julien Van Hout, chef d'orchestre de l'orchestre Demos en Gironde.
Novembre 2016. Le premier rassemblement de l'orchestre Demos a réuni enfants, travailleurs sociaux, professeurs, chefs de chœur et danseurs autour du chef d'orchestre Julien Van Hout. Ce fut une grande joie pour tous. Ce qui m'a frappé, c'est la qualité de la préparation des enfants grâce à l'encadrement des travailleurs sociaux. Ce sont 120 bambins déjà dans l'action, dans le désir de vivre l'expérience de partager. Il s'agit, pour cette première année, de construire le groupe en tant qu'orchestre. Demos s'inscrit tout à la fois dans une démarche sociale et culturelle, l'objectif étant de favoriser la démocratisation culturelle et l'égalité des chances, mais en ligne de mire, des concerts. Nous sommes aussi là pour nous produire et monter sur scène. Une expérience forte en perspective. Rendez-vous le 20 mai prochain.
Témoignage. Julien Van Hout, chef d'orchestre de l'orchestre Demos en Gironde.
Novembre 2016. Le premier rassemblement de l'orchestre Demos a réuni enfants, travailleurs sociaux, professeurs, chefs de chœur et danseurs autour du chef d'orchestre Julien Van Hout. Ce fut une grande joie pour tous. Ce qui m'a frappé, c'est la qualité de la préparation des enfants grâce à l'encadrement des travailleurs sociaux. Ce sont 120 bambins déjà dans l'action, dans le désir de vivre l'expérience de partager. Il s'agit, pour cette première année, de construire le groupe en tant qu'orchestre. Demos s'inscrit tout à la fois dans une démarche sociale et culturelle, l'objectif étant de favoriser la démocratisation culturelle et l'égalité des chances, mais en ligne de mire, des concerts. Nous sommes aussi là pour nous produire et monter sur scène. Une expérience forte en perspective. Rendez-vous le 20 mai prochain.
Le point de vue d'Isabelle Dexpert, vice-présidente chargée de la jeunesse, culture, sport et vie associative.
La culture constitue une véritable réponse contre l'exclusion sociale. Aussi, nous sommes-nous engagés en priorité en faveur de l'accessibilité culturelle et artistique. Depuis plusieurs années, nous voulions donc voir aboutir en Gironde le projet Demos. Le département s'est mobilisé afin qu'il prenne ici une dimension nouvelle. En effet, la Gironde est le plus vaste département français. La précarité sociale y est diverse, touchant à la fois des territoires ruraux et urbains. Nous avons donc tenu à voir des enfants issus de territoires ruraux intégrer ce jeune orchestre girondin et plus largement participer 3 années durant à cette aventure artistique en s'inscrivant dans un collectif.
Cette page de témoignage sur l'orchestre Demos s'achève sur 2 photos d'Éric Moncoucut et Violaine Parfait entourés de leurs apprentis musiciens. Le point de vue d'Isabelle Dexpert, vice-présidente chargée de la jeunesse, culture, sport et vie associative.
La culture constitue une véritable réponse contre l'exclusion sociale. Aussi, nous sommes-nous engagés en priorité en faveur de l'accessibilité culturelle et artistique. Depuis plusieurs années, nous voulions donc voir aboutir en Gironde le projet Demos. Le département s'est mobilisé afin qu'il prenne ici une dimension nouvelle. En effet, la Gironde est le plus vaste département français. La précarité sociale y est diverse, touchant à la fois des territoires ruraux et urbains. Nous avons donc tenu à voir des enfants issus de territoires ruraux intégrer ce jeune orchestre girondin et plus largement participer 3 années durant à cette aventure artistique en s'inscrivant dans un collectif.
Cette page de témoignage sur l'orchestre Demos s'achève sur 2 photos d'Éric Moncoucut et Violaine Parfait, entourés de leurs apprentis musiciens. Budget 2017, 1,64 milliard d'euros au service des Girondins. Dans une année marquée par les contraintes financières et une modification de la répartition des compétences entre collectivités locales, le département garde le cap. Sans augmenter la fiscalité, il s'agit de maîtriser fortement et durablement les dépenses, tout en valorisant les politiques de proximité, l'innovation et les projets des territoires.
Pour 100 euros de budget, investissement plus fonctionnement, 70 euros sont affectés aux solidarités individuelles, handicap, enfance, personnes âgées. 15 euros sont affectés aux services collectifs, transport, associations, pompiers. 15 euros sont affectés à l'investissement au profit de l'économie locale.
En 2017,
pas d'augmentation du taux de l'impôt foncier bâti.
Où vont les 200 millions d'euros d'investissement?
Infrastructure,
25%.
Collège,
25%.
Aide aux communes,
15%.
Numérique,
6%.
Patrimoine et bâtiments,
12%.
Divers,
17%.
Budget toujours plus maîtrisé.
Le département maîtrise très fortement ses dépenses de fonctionnement grâce à une mutualisation de ses services. Une action qui permet une baisse des dépenses de moyens.
Réduction des frais généraux.
Les dépenses d'énergie, fournitures, consultants sont en baisse de 4,6% par rapport au budget 2016.
Une gouvernance et une gestion financière qualifiées de fortes.
L'agence Standard & Poor's a maintenu le département de la Gironde à la note AA-, très proche de l'excellente maîtrise des équilibres financiers de la note maximum 3A et fort loin de la note D, risque majeur de défaut de paiement.
Budget 2017, 1,64 milliard d'euros au service des Girondins. Dans une année marquée par les contraintes financières et une modification de la répartition des compétences entre collectivités locales, le département garde le cap. Sans augmenter la fiscalité, il s'agit de maîtriser fortement et durablement les dépenses, tout en valorisant les politiques de proximité, l'innovation et les projets des territoires.
Pour 100 euros de budget, investissement plus fonctionnement, 70 euros sont affectés aux solidarités individuelles, handicap, enfance, personnes âgées. 15 euros sont affectés aux services collectifs, transport, associations, pompiers. 15 euros sont affectés à l'investissement au profit de l'économie locale.
En 2017,
pas d'augmentation du taux de l'impôt foncier bâti.
Où vont les 200 millions d'euros d'investissement?
Infrastructure,
25%.
Collège,
25%.
Aide aux communes,
15%.
Numérique,
6%.
Patrimoine et bâtiments,
12%.
Divers,
17%.
Budget toujours plus maîtrisé.
Le département maîtrise très fortement ses dépenses de fonctionnement grâce à une mutualisation de ses services. Une action qui permet une baisse des dépenses de moyens.
Réduction des frais généraux.
Les dépenses d'énergie, fournitures, consultants sont en baisse de 4,6% par rapport au budget 2016.
Une gouvernance et une gestion financière qualifiées de fortes.
L'agence Standard & Poor's a maintenu le département de la Gironde à la note AA-, très proche de l'excellente maîtrise des équilibres financiers de la note maximum 3A et fort loin de la note D, risque majeur de défaut de paiement.
Point de vue de Jean-Marie Darmian, vice-président chargé des finances et des fonds européens.
Ce n'est pas un hasard si le département a pu maintenir la note AA- perspective stable. L'agence de notation Standard & Poor's souligne en effet la bonne gestion du département avec des perspectives de performance budgétaire fortes dans les prochaines années. Notre volonté est bien, tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement et malgré nos moyens contraints, de maintenir une politique d'investissement ambitieuse. 200 millions par an sont ainsi injectés dans les grands et plus petits projets de la Gironde. Au-delà, nous devons, comme le traduit ce budget, préserver la qualité du service rendu aux Girondins. Bâtir l'avenir dans la proximité, c'est avoir le souci du concret.
Point de vue de Jean-Marie Darmian, vice-président chargé des finances et des fonds européens.
Ce n'est pas un hasard si le département a pu maintenir la note AA- perspective stable. L'agence de notation Standard & Poor's souligne en effet la bonne gestion du département avec des perspectives de performance budgétaire fortes dans les prochaines années. Notre volonté est bien, tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement et malgré nos moyens contraints, de maintenir une politique d'investissement ambitieuse. 200 millions par an sont ainsi injectés dans les grands et plus petits projets de la Gironde. Au-delà, nous devons, comme le traduit ce budget, préserver la qualité du service rendu aux Girondins. Bâtir l'avenir dans la proximité, c'est avoir le souci du concret.
Revenu de base, l'utopie utile. Avec un chômage toujours élevé qui résiste à toutes les mesures tentées, les jeunes et les seniors restant particulièrement touchés, notre société amorce une mutation profonde, emploi ou activité. Ce ne sont désormais plus les synonymes. L'attribution d'un revenu de base, individuel et sans contrôle de ressources, pourrait changer la donne. Le département et la Fondation Jean Jaurès lancent une réflexion pour expérimenter ce revenu de base.
Depuis 20 ans, chômage de masse et pauvreté persistent. On change de vie plus souvent. La révolution numérique bouleverse le travail. La cohésion sociale est fragilisée. Demain, un revenu pour tous avec le revenu de base. Sécuriser le citoyen en cas de coup dur, d'imprévu, d'accident de parcours. Permettre le changement de voie professionnelle et la formation. Favoriser les initiatives, création d'activités économiques ou culturelles, reprise d'études. Favoriser le bénévolat, l'engagement et le travail non rémunéré. Lutter contre la précarité. Gironde.fr/revenu de base en un seul mot. Calculez vous-même comment vous financez un revenu de base. Calendrier. Septembre 2016. Étude lancée avec la Fondation Jean Jaurès. Octobre 2016. Soutien du Premier ministre à la volonté girondine d'expérimenter. Décembre 2016. Janvier 2017. Participation de citoyens et d'associations aux réflexions. Février 2017, premier résultat de l'étude de financement sans surcoût pour la collectivité. Printemps 2017, définition des conditions d'expérimentation en Gironde. 2018-2020, expérimentation en Gironde, point d'interrogation.
Revenu de base, l'utopie utile. Avec un chômage toujours élevé qui résiste à toutes les mesures tentées, les jeunes et les seniors restant particulièrement touchés, notre société amorce une mutation profonde, emploi ou activité. Ce ne sont désormais plus les synonymes. L'attribution d'un revenu de base, individuel et sans contrôle de ressources, pourrait changer la donne. Le département et la Fondation Jean Jaurès lancent une réflexion pour expérimenter ce revenu de base.
Depuis 20 ans, chômage de masse et pauvreté persistent. On change de vie plus souvent. La révolution numérique bouleverse le travail. La cohésion sociale est fragilisée. Demain, un revenu pour tous avec le revenu de base. Sécuriser le citoyen en cas de coup dur, d'imprévu, d'accident de parcours. Permettre le changement de voie professionnelle et la formation. Favoriser les initiatives, création d'activités économiques ou culturelles, reprise d'études. Favoriser le bénévolat, l'engagement et le travail non rémunéré. Lutter contre la précarité. Gironde.fr/revenu de base en un seul mot. Calculez vous-même comment vous financez un revenu de base. Calendrier. Septembre 2016. Étude lancée avec la Fondation Jean Jaurès. Octobre 2016, soutien du Premier ministre à la volonté girondine d'expérimenter. décembre 2016, janvier 2017, participation de citoyens et d'associations aux réflexions. Février 2017, premier résultat de l'étude de financement sans surcoût pour la collectivité. Printemps 2017, définition des conditions d'expérimentation en Gironde. 2018-2020, expérimentation en Gironde, point d'interrogation.
Témoignage de Nicolas Fresquet, 40 ans, a fondé avec sa compagne Vera le Livre Vert, entreprise d'insertion, qui revalorise, recycle, redistribue et revend des livres. Une deuxième vie pour ses ouvrages qui permet d'employer 6 personnes. Après plusieurs mois d'exercice, il vient seulement de se dégager un premier salaire au SMIC. Il est engagé dans l'équipe de réflexion autour du revenu de base.
Le revenu de base déclenche les initiatives et les volontés. Ce n'est pas la notion de travail qui compte, c'est celle de l'activité, une activité partagée qui casse les visions individuelles ou individualistes.
Témoignage de Nicolas Fresquet, 40 ans, a fondé avec sa compagne Vera le Livre Vert, entreprise d'insertion, qui revalorise, recycle, redistribue et revend des livres. Une deuxième vie pour ses ouvrages qui permet d'employer 6 personnes. Après plusieurs mois d'exercice, il vient seulement de se dégager un premier salaire au SMIC. Il est engagé dans l'équipe de réflexion autour du revenu de base.
Le revenu de base déclenche les initiatives et les volontés. Ce n'est pas la notion de travail qui compte, c'est celle de l'activité, une activité partagée qui casse les visions individuelles ou individualistes.
Témoignage de Stéphanie Arcelin, 45 ans, et mère célibataire de 2 enfants, allocataire du RSA, elle a rencontré le Premier ministre au mois d'octobre et a souhaité s'associer au travail de réflexion autour du revenu universel.
Le revenu de base fera du bien. Tout le monde a droit à l'égalité. Je souhaite que ce revenu soit mis en place, mais pas uniquement pour moi, pour des millions de gens. Il ouvre des tas de possibilités, il redonne une dignité.
Témoignage de Stéphanie Arcelin, 45 ans, et mère célibataire de 2 enfants, allocataire du RSA, elle a rencontré le Premier ministre au mois d'octobre et a souhaité s'associer au travail de réflexion autour du revenu universel.
Le revenu de base fera du bien. Tout le monde a droit à l'égalité. Je souhaite que ce revenu soit mis en place, mais pas uniquement pour moi, pour des millions de gens. Il ouvre des tas de possibilités, il redonne une dignité.
Témoignage de Philippe Faure, 47 ans, est artiste plasticien spécialisé dans les arts numériques. Il attend beaucoup de l'expérimentation lancée par le département sur le revenu de base dans laquelle il s'implique.
Notre société voit naître beaucoup d'artistes, mais ensuite, elle ne les élève pas. Elle ne valorise pas la création. Et il faut faire avec les vexations, le manque de dignité. Avec ce projet qui nous réunit, la feuille blanche est là. Il nous faut l'écrire.
Témoignage de Philippe Faure, 47 ans, est artiste plasticien spécialisé dans les arts numériques. Il attend beaucoup de l'expérimentation lancée par le département sur le revenu de base dans laquelle il s'implique.
Notre société voit naître beaucoup d'artistes, mais ensuite, elle ne les élève pas. Elle ne valorise pas la création. Et il faut faire avec les vexations, le manque de dignité. Avec ce projet qui nous réunit, la feuille blanche est là. Il nous faut l'écrire.
Témoignage de Jean-Luc Glaise, 54 ans, président du conseil départemental de la Gironde, vient de lancer cette utopie utile, le principe d'une réflexion autour du revenu universel. Lui, qui a fait de l'innovation sociale la priorité de sa mandature, s'attelle à un défi de taille.
Imaginer une société du revenu de base tendrait à garantir la dignité à tous nos concitoyens, reconnaîtrait de la valeur aux gens en dehors de leur seule capacité professionnelle. Cette société renforcerait le sens de l'engagement et du bénévolat, des richesses humaines, de la création, et redonnerait le contrôle aux individus dans leur choix de vie.
Témoignage de Jean-Luc Glaise, 54 ans, président du conseil départemental de la Gironde, vient de lancer cette utopie utile, le principe d'une réflexion autour du revenu universel. Lui, qui a fait de l'innovation sociale la priorité de sa mandature, s'attelle à un défi de taille.
Imaginer une société du revenu de base tendrait à garantir la dignité à tous nos concitoyens, reconnaîtrait de la valeur aux gens en dehors de leur seule capacité professionnelle. Cette société renforcerait le sens de l'engagement et du bénévolat, des richesses humaines, de la création, et redonnerait le contrôle aux individus dans leur choix de vie.
Environnement, les pesticides, c'est pas automatique. L'exposition, les pesticides, c'est pas automatique, sillonne les routes du Gironde depuis près de 6 mois. Elle sensibilise particuliers et collectivités sur les avantages d'un jardinage qui évite l'usage des phytosanitaires issus de la chimie de synthèse, ainsi que sur les alternatives naturelles.
Conçu et réalisé par un atelier chantier d'insertion de l'association pour les enfants du pays de Bélème, cette exposition itinérante est une réponse à la demande du conseil départemental et de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Elle vise à informer les citoyens sur les dangers des pesticides et des techniques de jardinage simples et efficaces, des techniques que chacun peut s'approprier. Animée par un réseau de professionnels, cette exposition gratuite est coordonnée par Graines Aquitaine. Elle est composée de 9 stations interactives et ludiques. Les pesticides, pourtant couramment utilisés, ne sont pas anodins. Ils peuvent se révéler dangereux pour la santé et néfastes pour l'environnement. Il s'agit donc d'apprendre à jardiner en préservant sa santé et l'environnement. Choisir des plantes adaptées au milieu, bien gérer l'arrosage, couvrir le sol, associer des plantes compagnes et mettre en place la rotation des cultures sont des points essentiels à respecter. Jardiner plus vert. Ce devait être en 2022, ce sera finalement dès 2019. Une fois n'est pas coutume. La loi sur la transition énergétique a avancé la date d'interdiction à la vente des pesticides pour les particuliers. Le texte prévoit que la plupart des produits phytosanitaires ne pourront plus être distribués en libre-service dans les jardineries dès 2017. L'enjeu n'est pas neutre. Les Français ont acheté pour 620 millions d'euros de produits pour jardin en 2015. Plus concret encore, depuis le 1er janvier dernier, l'utilisation des produits phytosanitaires par l'État, les collectivités locales et les établissements publics pour l'entretien des espaces verts, les promenades, les forêts et les voiries est interdite. Peu à peu, vous verrez en plus des espaces verts habituels une tonte différenciée, du paillage, des mauvaises herbes entre guillemets, des parterres de vivaces, des prés fleuris, des trottoirs enherbés et des haies diversifiées. À l'échelle d'une commune, ce mode de gestion permet de réduire l'utilisation de produits chimiques, de favoriser la biodiversité et de diversifier les types d'espaces verts. Le principe est d'entretenir autant que nécessaire et aussi peu que possible.
Cet article est illustré de 3 photos. L'une, l'expo des pesticides, c'est pas automatique, en escale à Audenge. L'autre, à Tresse, les moutons, faucheurs du futur. Et la dernière, le désherbage mécanique dans une propriété viticole. Environnement, les pesticides, c'est pas automatique. L'exposition, les pesticides, c'est pas automatique, sillonne les routes du Gironde depuis près de 6 mois. Elle sensibilise particuliers et collectivités sur les avantages d'un jardinage qui évite l'usage des phytosanitaires issus de la chimie de synthèse, ainsi que sur les alternatives naturelles.
Conçu et réalisé par un atelier chantier d'insertion de l'association pour les enfants du pays de Bélème, cette exposition itinérante est une réponse à la demande du conseil départemental et de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Elle vise à informer les citoyens sur les dangers des pesticides et des techniques de jardinage simples et efficaces, des techniques que chacun peut s'approprier. Animée par un réseau de professionnels, cette exposition gratuite est coordonnée par Graines Aquitaine. Elle est composée de 9 stations interactives et ludiques. Les pesticides, pourtant couramment utilisés, ne sont pas anodins. Ils peuvent se révéler dangereux pour la santé et néfastes pour l'environnement. Il s'agit donc d'apprendre à jardiner en préservant sa santé et l'environnement. Choisir des plantes adaptées au milieu, bien gérer l'arrosage, couvrir le sol, associer des plantes compagnes et mettre en place la rotation des cultures sont des points essentiels à respecter. Jardiner plus vert. Ce devait être en 2022. Ce sera finalement dès 2019. Une fois n'est pas coutume. La loi sur la transition énergétique a avancé la date d'interdiction à la vente des pesticides pour les particuliers. Le texte prévoit que la plupart des produits phytosanitaires ne pourront plus être distribués en libre-service dans les jardineries dès 2017. L'enjeu n'est pas neutre. Les Français ont acheté pour 620 millions d'euros de produits pour jardins en 2015. Plus concret encore, depuis le 1er janvier dernier, l'utilisation des produits phytosanitaires par l'État, les collectivités locales et les établissements publics pour l'entretien des espaces verts, les promenades, les forêts et les voiries est interdite. Peu à peu, vous verrez en plus des espaces verts habituels une tonte différenciée, du paillage, des mauvaises herbes entre guillemets, des parterres de vivaces, des prés fleuris, des trottoirs enherbés et des haies diversifiées. À l'échelle d'une commune, ce mode de gestion permet de réduire l'utilisation de produits chimiques, de favoriser la biodiversité et de diversifier les types d'espaces verts. Le principe est d'entretenir autant que nécessaire et aussi peu que possible.
Cet article est illustré de trois photos. L'une, l'expo des pesticides, c'est pas automatique, en escale à Audenge. L'autre, à Tresse, les moutons, faucheurs du futur. Et la dernière, le désherbage mécanique dans une propriété viticole.
Le saviez-vous ? À surface égale, un jardinier amateur consomme trois fois plus de pesticides qu'un exploitant agricole. Les jardiniers amateurs français consomment près de 8000 tonnes de produits phytosanitaires par an. Les jardins seraient ainsi responsables de 25% de la pollution des cours d'eau et des nappes phréatiques. Une expo gratuite proposée aux collectivités, établissements scolaires, associations de la Gironde, Graines Aquitaine, 05 56 88 19 07, graines-aquitaine.org. Exposition éco-responsable. Dans un souci d'exemplarité et afin de réduire son impact sur l'environnement, l'exposition a été éco-conçue en privilégiant l'utilisation de bois locaux avec emploi de peinture et l'azur éco-labellisé, l'utilisation d'une impression écologique, label imprime vert, pour les panneaux et les documents de communication et des prestataires de services aquitains. Téléchargement le guide pratique jardinage écologique de www.ecomatisme.fr. Pour l'année 2014, le département a soutenu 47 dossiers favorisant la protection de l'environnement dans le secteur viticole, traitement des effluents viticoles, lutte biotechnique, soutien aux organismes de la filière, plantation de haies. Pour l'année 2015, le département a soutenu 65 dossiers favorisant la filière bio et ses organismes, plantation de haies, aide aux viticulteurs bio, acquisition de matériel viticole. Le saviez-vous ? À surface égale, un jardinier amateur consomme trois fois plus de pesticides qu'un exploitant agricole. Les jardiniers amateurs français consomment près de 8000 tonnes de produits phytosanitaires par an. Les jardins seraient ainsi responsables de 25% de la pollution des cours d'eau et des nappes phréatiques. Une expo gratuite proposée aux collectivités, établissements scolaires, associations de la Gironde, Graines Aquitaine, 05 56 88 19 07, graines-aquitaine.org. Exposition éco-responsable. Dans un souci d'exemplarité et afin de réduire son impact sur l'environnement, l'exposition a été éco-conçue en privilégiant l'utilisation de bois locaux avec emploi de peinture et l'azur éco-labellisé, l'utilisation d'une impression écologique, label imprime vert, pour les panneaux et les documents de communication et des prestataires de services aquitains. Téléchargement le guide pratique jardinage écologique de www.ecomatisme.fr. ecomatisme@ecomatisme.fr. Pour l'année 2014, le département a soutenu 47 dossiers favorisant la protection de l'environnement dans le secteur viticole, traitement des effluents viticoles, lutte biotechnique, soutien aux organismes de la filière, plantation de haies. Pour l'année 2015, le département a soutenu 65 dossiers favorisant la filière bio et ses organismes, plantation de haies, aide aux viticulteurs bio, acquisition de matériel viticole.
Témoignage de Didier Pouvreau, maire de Bruges, adjoint délégué à l'environnement, à l'eau, à l'énergie et à l'agenda 21.
Nous avons choisi d'anticiper la loi, de proscrire l'usage des pesticides sur toutes les zones publiques, cimetières compris. Beaucoup de temps a été consacré à expliquer pourquoi certains espaces ne sont pas fauchés autant qu'avant. Pourquoi des herbes peuvent pousser sur les trottoirs. Pourquoi, à certains endroits, les compositions florales ont été remplacées par des plantes moins consommatrices d'eau. C'est primordial. L'enjeu est d'abord une question de santé publique. Nous œuvrons pour préserver la biodiversité ainsi que les ressources en eau et en énergie. Mais nous faisons également des économies financières qui sont nécessaires.
Témoignage de Didier Pouvreau, maire de Bruges, adjoint délégué à l'environnement, à l'eau, à l'énergie et à l'agenda 21.
Nous avons choisi d'anticiper la loi, de proscrire l'usage des pesticides sur toutes les zones publiques, cimetières compris. Beaucoup de temps a été consacré à expliquer pourquoi certains espaces ne sont pas fauchés autant qu'avant. Pourquoi des herbes peuvent pousser sur les trottoirs. Pourquoi, à certains endroits, les compositions florales ont été remplacées par des plantes moins consommatrices d'eau. C'est primordial. L'enjeu est d'abord une question de santé publique. Nous œuvrons pour préserver la biodiversité ainsi que les ressources en eau et en énergie. Mais nous faisons également des économies financières qui sont nécessaires.
Témoignage d'Anne Guéraud, maire de Tresse, adjointe chargée de l'environnement, des espaces verts et de la propreté.
Depuis un an, nous n'utilisons plus de désherbants chimiques. À chaque lieu, son désherbage naturel, manuel ou thermique. Dans le cadre de la communauté de communes, nous avons un désherbeur thermique à gaz et une balayeuse. Nous avons également expérimenté l'éco-pâturage avec une vingtaine de moutons et de chèvres sur plusieurs sites. Nous le reconduisons cette année, mais uniquement au parc de la Séguinie. Économique, cette technique d'entretien est rentable très rapidement. Écologique, ce mode de gestion favorise la biodiversité, aussi bien floristique que faunistique. L'éco-pâturage présente aussi un intérêt social, l'animal créant du lien entre les générations. Nombreux sont les Tressois à nous parler des animaux.
Témoignage d'Anne Guéraud, maire de Tresse, adjointe chargée de l'environnement, des espaces verts et de la propreté.
Depuis un an, nous n'utilisons plus de désherbants chimiques. À chaque lieu, son désherbage naturel, manuel ou thermique. Dans le cadre de la communauté de communes, nous avons un désherbeur thermique à gaz et une balayeuse. Nous avons également expérimenté l'éco-pâturage avec une vingtaine de moutons et de chèvres sur plusieurs sites. Nous le reconduisons cette année, mais uniquement au parc de la Séguinie. Économique, cette technique d'entretien est rentable très rapidement. Écologique, ce mode de gestion favorise la biodiversité, aussi bien floristique que faunistique. L'éco-pâturage présente aussi un intérêt social, l'animal créant du lien entre les générations. Nombreux sont les Tressois à nous parler des animaux.
Point de vue de Bernard Castagnier, vice-président, chargé de l'attractivité territoriale, développement économique et du tourisme.
C'est une question primordiale de santé publique. Chacun doit prendre ses responsabilités pour que les pesticides disparaissent de nos usages. Le département est engagé dans cette mutation qui touche d'ailleurs aussi bien les particuliers, les collectivités, que les agriculteurs et les viticulteurs. Choisir un jardinage, un entretien des espaces publics et une production raisonnée, c'est aussi préserver nos conditions de vie et surtout celles des générations futures.
Point de vue de Bernard Castagnier, vice-président, chargé de l'attractivité territoriale, développement économique et du tourisme.
C'est une question primordiale de santé publique. Chacun doit prendre ses responsabilités pour que les pesticides disparaissent de nos usages. Le département est engagé dans cette mutation qui touche d'ailleurs aussi bien les particuliers, les collectivités, que les agriculteurs et les viticulteurs. Choisir un jardinage, un entretien des espaces publics et une production raisonnée, c'est aussi préserver nos conditions de vie et surtout celles des générations futures.
À la découverte. À la découverte. Tête de Gironde, itinéraire d'une maman comme les autres. Florence Mejekas-Neugebauer est une maman heureuse et une femme active. Elle partage avec d'autres parents la particularité d'être handicapée. Elle a créé, en dit parentalité, reconnaissance, partage et besoin, une association qu'elle préside.
Sa longue chevelure caressant doucement le front de son nouveau-né, Florence allaite sa fille, née en novembre dernier. Cette trentenaire, au sourire communicatif, est installée en sud de Gironde. Déjà mère d'un garçon de 9 ans, elle est atteinte d'ostéogénèse imparfaite, maladie génétique dite des os de verre, et se déplace en fauteuil roulant. Décider d'avoir un enfant malgré ce handicap fut pour moi le début d'une réflexion sur la maternité et les gestes du quotidien à assumer après la naissance, explique-t-elle. Mais elle constate rapidement que nombre de ces questions ne trouvent pas de réponse. C'est votre enfant ? Parallèlement à son expérience, cette jeune maman au brillant parcours universitaire est frappée par les réactions des autres parents. Je me suis aperçue que pour certains, il était compliqué d'imaginer qu'une personne handicapée puisse avoir un enfant. J'ai découvert aussi que des parents handicapés subissent avec beaucoup de dureté le regard des autres, précise-t-elle. C'est ainsi que Florence décide de créer une association dédiée à l'handiparentalité, destinée à créer du lien et à éduquer à la différence. La structure voit le jour en 2010. Car anticiper, avoir du soutien et pouvoir s'organiser sont les clés de la vie quotidienne des parents handicapés, insiste sa présidente. Notre objectif est donc de les informer, de les accompagner et de leur proposer des ressources. L'association Handiparentalité travaille autant sur les questions de vie sexuelle et affective que sur les problématiques de parentalité. Pour défendre les droits des familles, elle met en place des actions de sensibilisation qui insistent en particulier sur le respect des choix des personnes en situation de handicap en ce qui concerne leur vie de famille. En 2015, Florence Mejekas-Neugebauer rencontre Anne-Sophie Moffré-Rochelet, photographe, avec qui elle participe au projet artistique « C'est votre enfant sur les chemins de l'handiparentalité ». S'ensuit une exposition qui effleure avec tendresse le quotidien de 5 femmes, une manière très sensible de découvrir que malgré le handicap, elles sont mères avant tout, avec leurs joies et leurs doutes. Nous avons voulu travailler autour de l'image des parents pour faire tomber les préjugés, explique Florence, dont les portraits retracent la deuxième grossesse. Autonomie au quotidien. En 2014, son association conventionne avec l'association Grandir Ensemble pour créer un espace dédié à l'accompagnement des parents et futurs parents porteurs de handicap moteur ou sensoriel à Bordeaux, au centre Papillon. Elle y accueille et oriente les personnes, les écoute et les conseille en les dirigeant si besoin vers des professionnels de la santé, de la petite enfance ou de la justice. Les questions qui reviennent le plus concernent l'autonomie et la gestion du quotidien. Nous partageons des astuces qui permettent à chacun de trouver sa place au sein de la famille, pointe la jeune femme. Un échange fait d'ingéniosité et d'une bonne humeur à toute épreuve. En juin 2013, Florence Mejekas-Neugebauer a publié son premier livre « Loupin et son aventure à trois pattes », un conte initiatique sur la différence aux éditions La Lune Vague, une démarche qui ne concerne pas uniquement ceux qui vivent le handicap au quotidien, mais qui implique la société tout entière.
Tête de Gironde, itinéraire d'une maman comme les autres. Florence Mejekas-Neugebauer est une maman heureuse et une femme active. Elle partage avec d'autres parents la particularité d'être handicapée. Elle a créé, en dit parentalité, reconnaissance, partage et besoin, une association qu'elle préside.
Sa longue chevelure caressant doucement le front de son nouveau-né, Florence allaite sa fille, née en novembre dernier. Cette trentenaire,
au sourire communicatif, est installée en sud de Gironde. Déjà mère d'un garçon de 9 ans, elle est atteinte d'ostéogénèse imparfaite, maladie génétique dite des os de verre, et se déplace en fauteuil roulant. Décider d'avoir un enfant malgré ce handicap fut pour moi le début d'une réflexion sur la maternité et les gestes du quotidien à assumer après la naissance, explique-t-elle. Mais elle constate rapidement que nombre de ces questions ne trouvent pas de réponse. C'est votre enfant ? Parallèlement à son expérience, cette jeune maman au brillant parcours universitaire est frappée par les réactions des autres parents. Je me suis aperçue que pour certains, il était compliqué d'imaginer qu'une personne handicapée puisse avoir un enfant. J'ai découvert aussi que des parents handicapés subissent avec beaucoup de dureté le regard des autres, précise-t-elle. C'est ainsi que Florence décide de créer une association dédiée à l'handiparentalité, destinée à créer du lien et à éduquer à la différence. La structure voit le jour en 2010. Car anticiper, avoir du soutien et pouvoir s'organiser sont les clés de la vie quotidienne des parents handicapés, insiste sa présidente. Notre objectif est donc de les informer, de les accompagner et de leur proposer des ressources. L'association Handiparentalité travaille autant sur les questions de vie sexuelle et affective que sur les problématiques de parentalité. Pour défendre les droits des familles, elle met en place des actions de sensibilisation qui insistent en particulier sur le respect des choix des personnes en situation de handicap en ce qui concerne leur vie de famille. En 2015, Florence Négécas-Neugeboer rencontre Anne-Sophie Moffré-Rochelet, photographe, avec qui elle participe au projet artistique « C'est votre enfant sur les chemins de l'handiparentalité ». S'ensuit une exposition qui effleure avec tendresse le quotidien de 5 femmes, une manière très sensible de découvrir que malgré le handicap, elles sont mères avant tout, avec leurs joies et leurs doutes. Nous avons voulu travailler autour de l'image des parents pour faire tomber les préjugés, explique Florence, dont les portraits retracent la deuxième grossesse. Autonomie au quotidien. En 2014, son association conventionne avec l'association Grandir Ensemble pour créer un espace dédié à l'accompagnement des parents et futurs parents porteurs de handicap moteur ou sensoriel à Bordeaux, au centre Papillon. Elle y accueille et oriente les personnes, les écoute et les conseille en les dirigeant si besoin vers des professionnels de la santé, de la petite enfance ou de la justice. Les questions qui reviennent le plus concernent l'autonomie et la gestion du quotidien. Nous partageons des astuces qui permettent à chacun de trouver sa place au sein de la famille, pointe la jeune femme. Un échange fait d'ingéniosité et d'une bonne humeur à toute épreuve. En juin 2013, Florence Négécas-Neugeboer a publié son premier livre, « Loupin et son aventure à trois pattes », un conte initiatique sur la différence aux éditions La Lune Vague, une démarche qui ne concerne pas uniquement ceux qui vivent le handicap au quotidien, mais qui implique la société tout entière.
Contact Florence Négécas-Neugeboer, florence@handiparentalité.org, 06 18 39 79 11 ou 07 82 57 89 72, Centre Papillon à Bordeaux, handiparentalité.org, mamandi, mamhandi.fr. Contact Florence Négécas-Neugeboer, florence@handiparentalité.org, 06 18 39 79 11 ou 07 82 57 89 72, Centre Papillon à Bordeaux, handiparentalité.org, mamandi, mamhandi.fr.
Témoignage d'Antinéa, maman de 3 enfants, professeure de français à Talence.
Je suis maman de 3 enfants. Je connais Florence depuis environ 20 ans. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions étudiantes et nous échangeions beaucoup sur notre désir d'enfant à l'époque. C'est à quelques jours de mon dernier accouchement, en mai 2015, que j'ai appelé Florence, un peu paniquée par des questions d'ordre pratique. C'est à partir de là que j'ai adhéré à son association Handiparentalité, qui m'a soutenue tant sur le plan moral que matériel. Il est important pour moi de faire comprendre que le désir d'enfant peut être présent tout naturellement et malgré le handicap. C'est pourquoi j'ai participé au projet de Florence « C'est votre enfant ?» tout en participant en parallèle à celui du conseil départemental, car il est indispensable de changer le regard des gens sur la parentalité des personnes handicapées.
Témoignage d'Antinéa, maman de 3 enfants, professeure de français à Talence.
Je suis maman de 3 enfants. Je connais Florence depuis environ 20 ans. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions étudiantes et nous échangeions beaucoup sur notre désir d'enfant à l'époque. C'est à quelques jours de mon dernier accouchement, en mai 2015, que j'ai appelé Florence un peu paniquée par des questions d'ordre pratique. C'est à partir de là que j'ai adhéré à son association Handiparentalité, qui m'a soutenue tant sur le plan moral que matériel. Il est important pour moi de faire comprendre que le désir d'enfant peut être présent tout naturellement et malgré le handicap. C'est pourquoi j'ai participé au projet de Florence « C'est votre enfant ?» tout en participant en parallèle à celui du conseil départemental, car il est indispensable de changer le regard des gens sur la parentalité des personnes handicapées.
Histoire, atelier ferroviaire, ici chanter la révolution. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui l'importance du chemin de fer dans l'évolution radicale d'un village, provoquant même parfois une révolution locale. C'est pourtant par le rail que Saint-Symphorien, comme bien d'autres communes, a vu son territoire et le mode de vie de ses habitants bouleversés. Récit.
À la fin du XIXe siècle, la sylviculture occupe la première place dans l'économie du Sud Gironde. Les produits forestiers, alors écoulés par voie d'eau, sont dorénavant transportés par la ligne Le Nizan Saint-Symphorien-Sors, ouverte en 1873 dans une Gironde au maillage ferroviaire de plus en plus dense. Cette activité entraîne en 1891 la construction d'un atelier de réparation de matériel ferroviaire à Saint-Symphorien. Dernier représentant des 3 sites créés par la Société Générale des Chemins de Fer Économiques, il constitue, aujourd'hui, un témoignage précieux d'une vie industrielle révolue. Étolimeurs, fraises à tête universelle et autres machines-outils côtoient d'anciens wagons. Au sol, des pavés de pin pour atténuer le bruit et absorber la graisse. Au mur, encore quelques outils d'époque. Dans cet ensemble resté en l'état, on se représente aisément les différents corps de métiers d'ouvriers, les forgerons et chaudronniers travaillant aux côtés des peintres et tapissiers. Nouvelle classe sociale. L'arrivée de cette population ouvrière, également constituée de migrants, en majorité espagnols, permet à l'atelier de soutenir une forte activité. Elle modifie aussi en profondeur les rapports sociaux. Cette classe libre, au salaire régulier, laisse entrevoir aux travailleurs des forêts la possibilité d'un autre mode de vie. Les familles de résiniers, muletiers ou encore métayers jusqu'alors sous l'égide des puissants propriétaires forestiers, remettent en cause leurs conditions de vie. Il en résulte une vraie confrontation patronat-classe ouvrière. C'est ainsi, par exemple, que les villageois profitent de la première douche avec eau courante installée dans l'atelier pour les ouvriers. En outre, il n'est pas neutre de constater qu'issus de cette nouvelle classe sociale mixte, plusieurs générations d'élus municipaux et cantonaux se succéderont continuellement. En conséquence d'une réorganisation de l'activité forestière, le site ferme en 1978 et devient l'année suivante la propriété du département de la Gironde, responsable aujourd'hui de son entretien et de sa conservation. Lui redonner toute sa splendeur et le convertir en lieu de vie sont les objectifs de Guy Dupiol, maire de Saint-Symphorien. Il s'agit de sauvegarder les murs et l'âme de cet édifice, inscrit depuis 1989 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Attention, le bâtiment est pour l'instant fermé aux visites du public. Des travaux de mise aux normes de sécurité devraient y être effectués.
Histoire. Atelier ferroviaire, ici chanter la révolution. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui l'importance du chemin de fer dans l'évolution radicale d'un village, provoquant même parfois une révolution locale. C'est pourtant par le rail que Saint-Symphorien, comme bien d'autres communes, a vu son territoire et le mode de vie de ses habitants bouleversés. Récit.
À la fin du XIXe siècle, la sylviculture occupe la première place dans l'économie du Sud Gironde. Les produits forestiers, alors écoulés par voie d'eau, sont dorénavant transportés par la ligne Le Nizan Saint-Symphorien-Sors, ouverte en 1873 dans une Gironde au maillage ferroviaire de plus en plus dense. Cette activité entraîne en 1891 la construction d'un atelier de réparation de matériel ferroviaire à Saint-Symphorien. Dernier représentant des trois sites créés par la Société Générale des Chemins de Fer Économiques, il constitue, aujourd'hui, un témoignage précieux d'une vie industrielle révolue. Étolimeurs, fraises à tête universelle et autres machines-outils côtoient d'anciens wagons. Au sol, des pavés de pin pour atténuer le bruit et absorber la graisse. Au mur, encore quelques outils d'époque. Dans cet ensemble resté en l'état, on se représente aisément les différents corps de métiers d'ouvriers, les forgerons et chaudronniers travaillant aux côtés des peintres et tapissiers. Nouvelle classe sociale. L'arrivée de cette population ouvrière, également constituée de migrants, en majorité espagnole, permet à l'atelier de soutenir une forte activité. Elle modifie aussi en profondeur les rapports sociaux. Cette classe libre, au salaire régulier, laisse entrevoir aux travailleurs des forêts la possibilité d'un autre mode de vie. Les familles de résiniers, muletiers ou encore métayers jusqu'alors sous l'égide des puissants propriétaires forestiers, remettent en cause leurs conditions de vie. Il en résulte une vraie confrontation patronat-classe ouvrière. C'est ainsi, par exemple, que les villageois profitent de la première douche avec eau courante installée dans l'atelier pour les ouvriers. En outre, il n'est pas neutre de constater qu'issus de cette nouvelle classe sociale mixte, plusieurs générations d'élus municipaux et cantonaux se succéderont continuellement. En conséquence d'une réorganisation de l'activité forestière, le site ferme en 1978 et devient l'année suivante la propriété du département de la Gironde, responsable aujourd'hui de son entretien et de sa conservation. Lui redonner toute sa splendeur et le convertir en lieu de vie sont les objectifs de Guy Dupiol, maire de Saint-Symphorien. Il s'agit de sauvegarder les murs et l'âme de cet édifice, inscrit depuis 1989 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Attention, le bâtiment est pour l'instant fermé aux visites du public. Des travaux de mise aux normes de sécurité devraient y être effectués.
Itinérance sur la voie verte. Le village de Castets-en-Dort, à 53 km au sud-est de Bordeaux, surplombe la vallée de la Garonne. Aux portes du canal des deux mers, il est aussi le point de départ de la voie verte. Petite précision. Le canal de Garonne, de Castets-en-Dort à Toulouse, devient le canal du Midi de Toulouse aux environs de Sète. L'ensemble est appelé canal des deux mers.
Avec ses monuments historiques attractifs comme le château du Hamel, l'église Saint-Louis ou le pont Eiffel, mais aussi son petit port de charme, Castets-en-Dort séduit à coup sûr randonneurs et cyclistes. S'ils vont plus loin en empruntant la voie verte qui longe le canal latéral et la Garonne, c'est le dépaysement garanti. Inscrit au plan départemental des espaces, sites et itinéraires, PDESI, de pleine nature, ce parcours, inauguré le 8 octobre dernier, est facile d'accès, y compris pour les personnes à mobilité réduite, sécurisé grâce à une voie entièrement dédiée, offrant de multiples possibilités de randonnée, à pied, vélo, roller ou même à cheval. La voie verte sur ses deux rives dispose de paysages naturels variés qui sont autant d'invitations à la découverte. Un port aménagé. Bordé de platanes centenaires, la voie verte offre chemin de halage, ponts, écluses et bateaux aux visiteurs en quête de sensations authentiques. C'est un axe de passage important au niveau national et européen, indique Stéphane Ducos, responsable du centre routier du Sud Gironde. Le port est le point de départ d'une balade d'un peu plus de 15 km et qui se termine à Ure. Première halte. Donc, le port de Plaisance propose une aire d'accueil, une activité restauration, un parking paysager et un stationnement ponctuel pour camping-car. Un peu plus loin sur le parcours, les adeptes d'activités de loisirs pourront profiter de la base nautique de Fontay où se pratiquent baignades, sports et loisirs, en attendant de rejoindre la voie verte reliée à d'autres parcours de découverte.
Cet article est illustré d'une photo du canal avec dans l'eau la péniche s'assit, et sur la voie sur berge, deux cyclistes, dûment casqués, un papa et son enfant. Cette photo est légendée, la voie verte qui longe le canal latéral et la Garonne, c'est le dépaysement garanti. itinérance sur la voie verte. Le village de Castets-en-Dort, à 53 km au sud-est de Bordeaux, surplombe la vallée de la Garonne. Aux portes du canal des deux mers, il est aussi le point de départ de la voie verte. Petite précision, le canal de Garonne, de Castets-en-Dort à Toulouse, devient le canal du Midi de Toulouse aux environs de Sète. L'ensemble est appelé canal des deux mers.
Avec ses monuments historiques attractifs comme le château du Hamel, l'église Saint-Louis ou le pont Eiffel, mais aussi son petit port de charme, Castets-en-Dort séduit à coup sûr randonneurs et cyclistes. S'ils vont plus loin en empruntant la voie verte qui longe le canal latéral et la Garonne, c'est le dépaysement garanti. Inscrit au plan départemental des espaces, sites et itinéraires, PDESI, de pleine nature, ce parcours, inauguré le 8 octobre dernier, est facile d'accès, y compris pour les personnes à mobilité réduite, sécurisé grâce à une voie entièrement dédiée, offrant de multiples possibilités de randonnée, à pied, vélo, roller ou même à cheval. La voie verte sur ses deux rives dispose de paysages naturels variés qui sont autant d'invitations à la découverte. Un port aménagé. Bordé de platanes centenaires, la voie verte offre chemins de halage, ponts, écluses et bateaux aux visiteurs en quête de sensations authentiques. C'est un axe de passage important au niveau national et européen, indique Stéphane Ducos, responsable du centre routier du Sud Gironde. Le port est le point de départ d'une balade d'un peu plus de 15 km et qui se termine à Ure. Première halte, donc, le port de Plaisance propose une aire d'accueil, une activité restauration, un parking paysager et un stationnement ponctuel pour camping-car. Un peu plus loin sur le parcours, les adeptes d'activités de loisirs pourront profiter de la base nautique de Fontay où se pratiquent baignades, sports et loisirs, en attendant de rejoindre la voie verte reliée à d'autres parcours de découverte.
Cet article est illustré d'une photo du canal avec dans l'eau la péniche Sassy et sur la voie sur berge deux cyclistes dûment casqués, un papa et son enfant. Cette photo est légendée, la voie verte qui longe le canal latéral et la Garonne, c'est le dépaysement garanti. Itinérance, la route du bonheur. Emprunter la route de la Corniche est une idée qui fait son chemin. Entre Dordogne et Estuaire, cet axe unique propose aux promeneurs une balade originale, pleine de charme.
Se balader hors saison sur la route de la Corniche, voie étroite, sinueuse et bucolique, c'est un bon choix de découverte. D'environ 8 km, le tracé principal qui guide le visiteur du village ancien de Bourg à Villeneuve de Blaye réserve bien des surprises. Itinéraire emprunté par une grande majorité de promeneurs, il relègue la route départementale au second plan. Forcément, le spectacle qu'offre ici la nature n'a rien de comparable. En voiture ou à vélo, les deux cohabitent sur la même voie, impossible de rester indifférent au paysage qui se dévoile. À mettre au pluriel même, puisque d'un côté coule la rivière Dordogne dans le reflet de son estuaire, quand de l'autre se dressent falaises et carrières de pierre. Jardins en couleur. Le cheminement suggère nombre de haltes intéressantes et de voyages dans l'imaginaire historique. Cet axe est aussi appelé « route des capitaines de marine », précise Stéphanie Ballot, responsable de l'office de tourisme en Côte-de-Bourg. On y trouve des cabanes à Carlet, un habitat troglodyte toujours peuplé, des îles, des vignes, ainsi que plusieurs panoramas, avec vue sur l'estuaire où Dordogne et Garonne se rejoignent, et le bec d'Ambès. Il y a aussi beaucoup de petits jardins fleuris devant les maisons. Stéphanie Ballot ajoute « des totems explicatifs et illustrés sur la faune, la flore et la pierre ont été érigés et une charte de bonne conduite mise en place pour les autocaristes et les compagnies fluviales qui automatiquement prennent cette route ». Notons la possibilité de plusieurs randonnées pédestres au choix et au départ de la route de la Corniche.
Cet article est illustré d'une photo prise sur la route de la Corniche au lieu dit La Reuille, commune de Bayon, avec en premier plan de superbes roses trémières. Itinérance, la route du bonheur. Emprunter la route de la Corniche est une idée qui fait son chemin. Entre Dordogne et Estuaire, cet axe unique propose aux promeneurs une balade originale, pleine de charme.
Se balader hors saison sur la route de la Corniche, voie étroite, sinueuse et bucolique, c'est un bon choix de découverte. D'environ 8 km, le tracé principal qui guide le visiteur du village ancien de Bourg à Villeneuve-de-Blaye réserve bien des surprises. Itinéraire emprunté par une grande majorité de promeneurs, il relègue la route départementale au second plan. Forcément, le spectacle qu'offre ici la nature n'a rien de comparable. En voiture ou à vélo, les deux cohabitent sur la même voie, impossible de rester indifférent au paysage qui se dévoile. À mettre au pluriel même, puisque d'un côté coule la rivière Dordogne dans le reflet de son estuaire, quand de l'autre se dressent falaises et carrières de pierre. Jardins en couleur. Le cheminement suggère nombre de haltes intéressantes et de voyages dans l'imaginaire historique. Cet axe est aussi appelé « route des capitaines de marine », précise Stéphanie Ballot, responsable de l'office de tourisme en Côte-de-Bourg. On y trouve des cabanes à Carlet, un habitat troglodyte toujours peuplé, des îles, des vignes, ainsi que plusieurs panoramas, avec vue sur l'estuaire où Dordogne et Garonne se rejoignent, et le bec d'Ambès. Il y a aussi beaucoup de petits jardins fleuris devant les maisons. Stéphanie Ballot ajoute « des totems explicatifs et illustrés sur la faune, la flore et la pierre ont été érigés et une charte de bonne conduite mise en place pour les autocaristes et les compagnies fluviales qui automatiquement prennent cette route. Notons la possibilité de plusieurs randonnées pédestres au choix et au départ de la route de la Corniche. »
Cet article est illustré d'une photo prise sur la route de la Corniche au lieu-dit La Reuille, commune de Bayon, avec en premier plan de superbes roses trémières.
Contact, communauté de communes de Bourg en Gironde. Service tourisme, 8 au Mas, 33 710 Bourg. Téléphone 05 57 94 06 80. www.tourisme-côte-2-bourg.fr. Côtes au pluriel. Contact. Communauté de communes de Bourg en Gironde. Service tourisme 8 au Mas, 33 710 Bourg. Téléphone 05 57 94 06 80. www.tourisme-côte-2-bourg.fr. Côtes au pluriel.
Producteur de la Gironde, Daniel Gerguil, le veto piqué des abeilles. Ils sont plus d'un millier en Gironde à élever des abeilles et à produire du miel. Parmi eux, le vétérinaire Daniel Gerguil, dont la passion pour l'insecte pollinisateur lui a fait accepter la présidence en 2013, du groupement de défense sanitaire des abeilles girondines, GDSA33.
Durant tout le temps de notre rencontre, Daniel Gerguil ne quittera quasiment jamais ses abeilles des yeux. L'homme aime les animaux. Outre ses 40 ruches, il a recueilli une douzaine de chiens, possède des chats, des poissons, etc. Il en a aussi fait son métier. Diplômé de l'école vétérinaire de Toulouse, il effectue des contrôles antidopage sur les chevaux de course. « C'est assez pointu et intéressant », explique-t-il. Mais, ajoute-t-il aussitôt, « ma passion, ce sont les abeilles. » Du côté maternel, raconte l'apiculteur castillonnais, il y en a depuis des générations. Mon oncle avait 6 ruches et m'a donné le virus. J'ai eu ma première à 10 ans et à 80 ans, j'en aurai toujours. Leur organisation le fascine, mais avec le temps, il s'est aussi passionné pour l'aspect, entre guillemets, « production ». Pour faire du miel, il faut anticiper le temps. En fonction de ce dernier, comme un navigateur, vous ajoutez une voile, baptisée une hausse, ou pas, précise-t-il. Des années difficiles. Les 25 000 ruches girondines sont conduites en grande majorité par des apiculteurs pour lesquels l'apiculture est une activité secondaire et un peu plus d'une douzaine de professionnels. L'ancienne région Aquitaine est la troisième région de France en nombre de ruches, indique Daniel Gerguil. Les dernières années ont cependant été difficiles, avec des printemps très humides et froids, Résultat, les abeilles butinent peu et consomment ce qu'elles récoltent. Mais l'année prochaine sera peut-être meilleure. Contre le climat, Daniel Gergouille et l'association qu'il préside depuis 2013, le Groupement de défense sanitaire des abeilles de Gironde, ne peuvent rien. En revanche, ils investissent beaucoup de temps, d'énergie et d'argent avec le soutien du département, soit 25 000 euros par an, dans la lutte contre la varroase et se mobilisent contre le frelon asiatique. Mais désormais, regrette l'apiculteur, il est trop bien implanté. Nous ne l'éradiquerons plus.
Note de la rédaction. La varroase est une maladie des abeilles due à un parasite, le varroa, V-A-2-R-O-A. Cet article est illustré de deux photos de Daniel Gergouille, une en gros plan et une au milieu de ses ruches. Producteur de la Gironde, Daniel Gergouille, le veto piqué des abeilles. Ils sont plus d'un millier en Gironde à élever des abeilles et à produire du miel. Parmi eux, le vétérinaire Daniel Gergouille, dont la passion pour l'insecte pollinisateur lui a fait accepter la présidence en 2013, du Groupement de défense sanitaire des abeilles girondines, GDSA33.
Durant tout le temps de notre rencontre, Daniel Gergouille ne quittera quasiment jamais ses abeilles des yeux. L'homme aime les animaux. Outre ses 40 ruches, il a recueilli une douzaine de chiens, possède des chats, des poissons, etc. Il en a aussi fait son métier. Diplômé de l'école vétérinaire de Toulouse, il effectue des contrôles antidopage sur les chevaux de course. « C'est assez pointu et intéressant », explique-t-il. Mais, ajoute-t-il aussitôt, « ma passion, ce sont les abeilles ». Du côté maternel, raconte l'apiculteur castillonnais, il y en a depuis des générations. Mon oncle avait 6 ruches et m'a donné le virus. J'ai eu ma première à 10 ans et à 80 ans, j'en aurai toujours. Leur organisation le fascine, mais avec le temps, il s'est aussi passionné pour l'aspect, entre guillemets, production. Pour faire du miel, il faut anticiper le temps. En fonction de ce dernier, comme un navigateur, vous ajoutez une voile, baptisée une hausse ou pas, précise-t-il. Des années difficiles. Les 25 000 ruches girondines sont conduites en grande majorité par des apiculteurs pour lesquels l'apiculture est une activité secondaire et un peu plus d'une douzaine de professionnels. L'ancienne région Aquitaine est la troisième région de France en nombre de ruches, indique Daniel Gergouille. Les dernières années ont cependant été difficiles, avec des printemps très humides et froids. Résultat, les abeilles butinent peu et consomment ce qu'elles récoltent. Mais l'année prochaine sera peut-être meilleure. Contre le climat, Daniel Gergouille et l'association qu'il préside depuis 2013, le Groupement de défense sanitaire des abeilles de Gironde, ne peuvent rien. En revanche, ils investissent beaucoup de temps, d'énergie et d'argent avec le soutien du département, soit 25 000 euros par an, dans la lutte contre la varroase et se mobilise contre le frelon asiatique. Mais désormais, regrette l'apiculteur, il est trop bien implanté. Nous ne l'éradiquerons plus.
Note de la rédaction. La varroase est une maladie des abeilles due à un parasite, le varroa, V-A-2-R-O-A. Cet article est illustré de deux photos de Daniel Gergouille, une en gros plan et une au milieu de ses ruches.
La lutte contre le frelon asiatique, une priorité. Observé pour la première fois en Gironde en août 2006, le frelon asiatique a étendu sa présence à la quasi-totalité du territoire français, exposant la population à des risques de piqûres dangereuses, voire mortelles, et menaçant les abeilles. Pour lutter contre, le GDSA 33 mène plusieurs actions. Mise au point d'un APAS spécifique avec un laboratoire, diffusion de pièges japonais et destruction de nids, plus de 2000 l'an dernier, avec des perches télescopiques. Ces actions sont soutenues par les cotisations des adhérents, les dons de particuliers et les subventions des communes. www.gdsa33.com/. Téléphone 06 18 62 09 69. Adresse courriel gdsadiffusion@orange.fr. La lutte contre le frelon asiatique, une priorité. Observé pour la première fois en Gironde en août 2006, le frelon asiatique a étendu sa présence à la quasi-totalité du territoire français, exposant la population à des risques de piqûres dangereuses, voire mortelles, et menaçant les abeilles. Pour lutter contre, le GDSA 33 mène plusieurs actions. Mise au point d'un APAS spécifique avec un laboratoire, diffusion de pièges japonais et destruction de nids, plus de 2000 l'an dernier, avec des perches télescopiques. Ces actions sont soutenues par les cotisations des adhérents, les dons de particuliers et les subventions des communes. www.gdsa33.com/. Téléphone 06 18 62 09 69. Adresse courriel gdsadiffusion@orange.fr.
La recette de Daniel, pain d'épices comme à la ferme.
Ingrédients: 50 g de beurre fondu, 125 g de miel, 125 g de sucre en poudre, 250 g de farine, un sachet de levure chimique, un verre à moutarde de lait, un œuf entier, 2 cuillères à soupe de pastis, 30 g d'angélique coupée en petits morceaux ou 50 g d'écorce d'orange confite, un zeste de citron. Faire fondre à feu doux le miel et le sucre dans le lait. Jetez le tout sur la farine et mélangez de façon à obtenir une pâte molle. Ajoutez l'œuf, l'angélique ou l'écorce d'orange, le zeste de citron, le pastis, la levure et le beurre fondu. Mélangez bien le tout. Versez dans un moule à cake chemisé de papier cuisson. Faire cuire une heure à thermostat 5.
La recette de Daniel, pain d'épices comme à la ferme.
Ingrédients: 50 g de beurre fondu, 125 g de miel, 125 g de sucre en poudre, 250 g de farine, un sachet de levure chimique, un verre à moutarde de lait, un œuf entier, 2 cuillères à soupe de pastis, 30 g d'angélique coupée en petits morceaux ou 50 g d'écorce d'orange confite, un zeste de citron. Faire fondre à feu doux le miel et le sucre dans le lait. Jetez le tout sur la farine et mélangez de façon à obtenir une pâte molle. Ajoutez l'œuf, l'angélique ou l'écorce d'orange, le zeste de citron, le pastis, la levure et le beurre fondu. Mélangez bien le tout. Versez dans un moule à cake chemisé de papier cuisson. Faire cuire une heure à thermostat 5.
Tribune libre. Conformément à la loi, ces pages sont réservées à l'expression des groupes politiques départementaux. À ce titre, le Conseil départemental attribue un espace proportionnel à la représentativité des différents groupes qui composent l'Assemblée. Les propos publiés dans cette rubrique n'engagent que leurs signataires. Tribune libre. Conformément à la loi, ces pages sont réservées à l'expression des groupes politiques départementaux. À ce titre, le Conseil départemental attribue un espace proportionnel à la représentativité des différents groupes qui composent l'Assemblée. Les propos publiés dans cette rubrique n'engagent que leurs signataires.
Groupe socialiste. Des actions concrètes pour tous les Girondins. Le budget 2017 est sincère et ambitieux. C'est l'engagement du président Glaize et de sa majorité pour apporter les services attendus par les Girondines et les Girondins. Une action de solidarité tant humaine que territoriale, de proximité. Les priorités de notre majorité. Voici la traduction concrète de ce budget. L'action sociale. Nous avons décidé d'accompagner les plus vulnérables, concrètement sur tous les territoires créés, 9 pôles territoriaux de solidarité et 36 maisons départementales de solidarité et d'insertion, qui regroupent l'ensemble des métiers de nos politiques sociales, puériculture, sage-femme, psychologue, médecin, assistante sociale, chargée d'insertion. Grâce à nos agents, 220 000 familles par an bénéficient des prestations sociales du département, dont 20 000 pour la protection maternelle et infantile, la petite enfance. L'éducation de nos enfants. Le département est propriétaire des 105 collèges publics et travaille avec 25 collèges privés. Ce sont 72 000 collégiens scolarisés, dont 11 000 bénéficient de bourses départementales. Le soutien à la culture.
avec des actions comme l'opération Scène d'été, qui invite 35 000 spectateurs sur 200 sites répartis sur toute la Gironde, mais aussi les 240 bibliothèques qui maillent la Gironde, en lien avec la bibliothèque départementale de Pré, pour satisfaire 83 000 lecteurs de tous âges et leurs familles. L'aide à la pratique du sport, avec l'opération Cap 33 notamment, ou avec 193 490 participants. L'accès aux loisirs sportifs, culturels et environnementaux pour les familles sur les périodes de vacances scolaires, mais aussi en investissant des sujets importants pour l'équilibre de notre territoire comme l'apprentissage de la natation, le dispositif Objectif Nage, qui trouvera un prolongement à travers le futur plan d'équipement nautique, afin que partout en Gironde, les jeunes puissent apprendre à nager. Internet et l'équipement numérique, élément central de notre quotidien, avec le plan Oméga, nous raccorderons 410 000 foyers girondins situés en zone blanche sur 10 ans. Pour réagir au plus vite, nous lançons en 2017 un plan d'urgence pour 40 communes aujourd'hui non desservies. Ces soutiens, ces services publics de proximité sont le fruit de notre volonté de mettre les moyens pour assumer une politique à l'écoute de vos besoins sur nos territoires. Notre majorité s'engage pour une Gironde forte et solidaire qui se développe et innove pour améliorer votre vie, votre quotidien.
Groupe politique socialiste, 05 56 99 35 78, groupe-ps@gironde.fr. Retrouvez l'information du groupe politique socialiste du département de la Gironde sur www.cg33-ps.net.
Groupe socialiste, des actions concrètes pour tous les Girondins. Le budget 2017 est sincère et ambitieux. C'est l'engagement du président Glaise et de sa majorité pour apporter les services attendus par les Girondines et les Girondins. Une action de solidarité tant humaine que territoriale, de proximité, les priorités de notre majorité. Voici la traduction concrète de ce budget. L'action sociale. Nous avons décidé d'accompagner les plus vulnérables, concrètement, sur tous les territoires créés, 9 pôles territoriaux de solidarité et 36 maisons départementales de solidarité et d'insertion, qui regroupent l'ensemble des métiers de nos politiques sociales, puériculture, sage-femme, psychologue, médecin, assistant social, chargé d'insertion. Grâce à nos agents, 220 000 familles par an bénéficient des prestations sociales du département, dont 20 000 pour la protection maternelle et infantile, la petite enfance. L'éducation de nos enfants. Le département est propriétaire des 105 collèges publics et travaille avec 25 collèges privés. Ce sont 72 000 collégiens scolarisés, dont 11 000 bénéficient de bourses départementales. Le soutien à la culture, avec des actions comme l'opération Scène d'été, qui invite 35 000 spectateurs sur 200 sites répartis sur toute la Gironde, mais aussi les 240 bibliothèques qui maillent la Gironde, en lien avec la bibliothèque départementale de Pré, pour satisfaire 83 000 lecteurs de tous âges et leurs familles. L'aide à la pratique du sport, avec l'opération Cap 33 notamment, ou avec 193 490 participants. L'accès aux loisirs sportifs, culturels et environnementaux pour les familles sur les périodes de vacances scolaires, mais aussi en investissant des sujets importants pour l'équilibre de notre territoire comme l'apprentissage de la natation, le dispositif Objectif Nage, qui trouvera un prolongement à travers le futur plan d'équipement nautique, afin que partout en Gironde, les jeunes puissent apprendre à nager. Internet et l'équipement numérique, élément central de notre quotidien, avec le plan Oméga, nous raccorderons 410 000 foyers girondins situés en zone blanche sur 10 ans. Pour réagir au plus vite, nous lançons en 2017 un plan d'urgence pour 40 communes aujourd'hui non desservies. Ces soutiens, ces services publics de proximité sont le fruit de notre volonté de mettre les moyens pour assumer une politique à l'écoute de vos besoins sur nos territoires. Notre majorité s'engage pour une Gironde forte et solidaire qui se développe et innove pour améliorer votre vie, votre quotidien.
Groupe politique socialiste, 05 56 99 35 78, groupe-ps@gironde.fr. Retrouvez l'information du groupe politique socialiste du département de la Gironde sur www.cg33-ps.net.
Europe Écologie Les Verts, EELV au cœur des projets départementaux. En 2016, le groupe écologiste au département s'est investi pleinement dans l'évolution de politiques publiques en faveur de toutes les Girondines et tous les Girondins. Contre l'exposition aux pesticides, nous avons travaillé auprès des autres élus ES et élus US de la majorité, sous l'impulsion de Laure Curval. Après concertation avec des associations et des chercheurs, nous avons remis en décembre 2016 au président Glaise nos propositions sur des actions volontaristes du département. Nous avons aussi participé au lancement de l'expérimentation du revenu de base en Gironde, Stéphane Saubus rejoignant son comité de pilotage, avec l'espoir à terme que toutes les Girondines et tous les Girondins puissent bénéficier de cette nécessaire avancée sociétale. Notons également le lancement en septembre 2016, sous l'impulsion d'Anne-Laure Fabre-Nadler, de la ligne Trans-Gironde 406, première ligne transversale du réseau reliant Créon au campus et à l'hôpital Pellegrin. Nous vous souhaitons une belle année 2017, que nous espérons riche de nouveaux progrès sociaux et environnementaux en Gironde.
Europe Écologie Les Verts, contact 05 56 99 67 03. Notre site internet, élu-gironde.eelv.fr/, Facebook, www.facebook.com/eelvcdgironde, Twitter, @élu-eelv-du8cd33.
Europe Écologie Les Verts, EELV au cœur des projets départementaux. En 2016, le groupe écologiste au département s'est investi pleinement dans l'évolution de politiques publiques en faveur de toutes les Girondines et tous les Girondins. Contre l'exposition aux pesticides, nous avons travaillé auprès des autres élus ES et élus US de la majorité, sous l'impulsion de Laure Curval. Après concertation avec des associations et des chercheurs, nous avons remis en décembre 2016 au président Glaise nos propositions sur des actions volontaristes du département. Nous avons aussi participé au lancement de l'expérimentation du revenu de base en Gironde, Stéphane Saubus rejoignant son comité de pilotage, avec l'espoir à terme que toutes les Girondines et tous les Girondins puissent bénéficier de cette nécessaire avancée sociétale. Notons également le lancement en septembre 2016, sous l'impulsion d'Anne-Laure Fabre-Nadler, de la ligne Trans-Gironde 406, première ligne transversale du réseau reliant Créon au campus et à l'hôpital Pellegrin. Nous vous souhaitons une belle année 2017, que nous espérons riche de nouveaux progrès sociaux et environnementaux en Gironde.
Europe Écologie Les Verts, contact 05 56 99 67 03. Notre site internet, élu-gironde.eelv.fr/, Facebook, www.facebook.com/eelvcdgironde, Twitter, @élu-eelv-du8cd33.
Front national, aucune ambition pour nos routes. Le conseil départemental a pour compétence exclusive et obligatoire l'entretien et le développement des routes départementales de la Gironde. Alors que notre département accueille 15 000 nouveaux habitants chaque année, le réseau tend à la saturation avec un nombre de véhicules toujours plus important à l'emprunter. L'année 2017 sera à l'image des précédentes.
pour le développement de nos routes départementales et l'amélioration de la fluidité de la circulation, la majorité écolo-socialiste ne consacrera qu'un budget dérisoire par rapport au budget total du département. Cette amélioration de nos routes est pourtant indispensable pour le développement économique du département et l'accessibilité des territoires ruraux qui vont inévitablement continuer de décrocher par rapport à la métropole bordelaise. Aucune ambition donc pour les socialistes qui manifestement ont abandonné le combat du développement économique pour se résoudre au tout social, résumant parfaitement là l'incompétence et l'idéologie socialiste.
Grégoire de Fournas, élu au pluriel Front National, retrouvez-nous sur Facebook et sur www.fn-medoc.fr, téléphone 07 62 32 50 94.
Front National, aucune ambition pour nos routes. Le Conseil départemental a pour compétence exclusive et obligatoire l'entretien et le développement des routes départementales de la Gironde. Alors que notre département accueille 15 000 nouveaux habitants chaque année, le réseau tend à la saturation avec un nombre de véhicules toujours plus important à l'emprunter. L'année 2017 sera à l'image des précédentes pour le développement de nos routes départementales et l'amélioration de la fluidité de la circulation. La majorité écolo-socialiste ne consacrera qu'un budget dérisoire par rapport au budget total du département. Cette amélioration de nos routes est pourtant indispensable pour le développement économique du département et l'accessibilité des territoires ruraux qui vont inévitablement continuer de décrocher par rapport à la métropole bordelaise. Aucune ambition donc pour les socialistes qui manifestement ont abandonné le combat du développement économique pour se résoudre au tout social, résumant parfaitement là l'incompétence et l'idéologie socialiste.
Grégoire de Fournas, élu au pluriel Front National, retrouvez-nous sur Facebook et sur www.fn-medoc.fr, téléphone 07 62 32 50 94.
Gironde Avenir, Agnès Versepuis, conseillère départementale, canton de Saint-Médard-en-Jalles.
Le vote du budget départemental 2017 a été présenté en décembre. Quelles sont vos attentes pour l'année à venir ?
Notre conception de l'utilisation des ressources est clairement différente de celle de la majorité qui inscrit son action dans la politique menée par le gouvernement. De plus, parallèlement à l'augmentation continue des dépenses départementales, nous ne voyons que des effets de communication. Il est urgent d'adopter un discours de vérité et d'agir concrètement pour l'avenir des Girondins.
Quel est votre bilan de cette première année de mandat ?
Cette année confirme la synergie de nos trois communes, Saint-Aubin-de-Médoc, Le Taillan-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles. Avec les élus, nous travaillons à mettre en place des projets structurants pour le territoire. Je pense notamment au futur EHPAD de 91 lits, livré en 2018, ainsi qu'aux 30 appartements en résidence autonomie, une première en Gironde, qui répondront à des besoins fondamentaux. Grâce à ce mandat de conseillère départementale, mon attention se porte également davantage sur le devenir des collégiens. Nous travaillons en lien avec les directeurs de nos établissements pour lutter contre le décrochage scolaire.
Au Taillan, vous avez décidé de cesser l'éclairage public la nuit pour une consommation énergétique plus responsable et une réduction des coûts. Qu'attendez-vous du conseil départemental sur ce sujet ?
Je souhaiterais que le département accompagne les démarches des communes pour généraliser ce principe, notamment en sécurisant la voirie. Tous les acteurs publics doivent s'engager à initier des conduites différentes, à la fois pour mieux gérer nos budgets et pour préserver notre environnement. Il s'agit là encore de choix et de courage politique.
La suite de l'interview, dont les actualités sur la déviation du Taillan-Médoc, sur www.gironde-avenir.fr. Gironde Avenir, groupe d'opposition de la droite et du centre, www.gironde-avenir.fr, téléphone 05 56 99 57 87 ou 05 56 99 35 40. Retrouvez notre actualité sur Twitter et Facebook.
Gironde Avenir, Agnès Versepuis, conseillère départementale, canton de Saint-Médard-en-Jalles.
Le vote du budget départemental 2017 a été présenté en décembre. Quelles sont vos attentes pour l'année à venir ?
Notre conception de l'utilisation des ressources est clairement différente de celle de la majorité qui inscrit son action dans la politique menée par le gouvernement. De plus, parallèlement à l'augmentation continue des dépenses départementales, nous ne voyons que des effets de communication. Il est urgent d'adopter un discours de vérité et d'agir concrètement pour l'avenir des Girondins.
Quel est votre bilan de cette première année de mandat?
Cette année confirme la synergie de nos trois communes, Saint-Aubin-de-Médoc, Le Taillant-Médoc, Saint-Médard-en-Jal. Avec les élus, nous travaillons à mettre en place des projets structurants pour le territoire. Je pense notamment au futur EHPAD de 91 lits livré en 2018, ainsi qu'aux 30 appartements en résidence autonomie, une première en Gironde, qui répondront à des besoins fondamentaux. Grâce à ce mandat de conseillère départementale, mon attention se porte également davantage sur le devenir des collégiens. Nous travaillons en lien avec les directeurs de nos établissements pour lutter contre le décrochage scolaire.
Au Taillant, vous avez décidé de cesser l'éclairage public la nuit pour une consommation énergétique plus responsable et une réduction des coûts. Qu'attendez-vous du conseil départemental sur ce sujet?
Je souhaiterais que le département accompagne les démarches des communes pour généraliser ce principe, notamment en sécurisant la voirie. Tous les acteurs publics doivent s'engager à initier des conduites différentes, à la fois pour mieux gérer nos budgets et pour préserver notre environnement. Il s'agit là encore de choix et de courage politique.
La suite de l'interview, dont les actualités sur la déviation du Taillant-Médoc, sur www.gironde-avenir.fr. Gironde Avenir, groupe d'opposition de la droite et du centre, www.gironde-avenir.fr, téléphone 05 56 99 57 87 ou 05 56 99 35 40. Retrouvez notre actualité sur Twitter et Facebook. Agenda. Le département les soutient. Voici une sélection d'événements forts aux quatre coins de la Gironde. Agenda. Le département les soutient. Voici une sélection d'événements forts aux quatre coins de la Gironde.
L'estuaire, jusqu'au 12 mars, Bordeaux. L'exposition L'estuaire de la Gironde, paysages et patrimoine, réalisée par les archives départementales de la Gironde, en partenariat avec le service régional du patrimoine et de l'inventaire, est toujours ouverte à la découverte du grand public. Invitation au voyage entre l'eau, le temps passé et le présent. L'objectif est de présenter le travail d'inventaire du patrimoine et des paysages des communes riveraines de l'estuaire. Documents, photos, films, témoignages oraux, objets et supports multimédia, à savourer sans modération.
Contact, archives départementales de la Gironde, 72 cours Bagueris-Tuttenberg, à Bordeaux, 05 56 99 66 00, www.archives.gironde.fr.
L'estuaire, jusqu'au 12 mars, Bordeaux. L'exposition L'estuaire de la Gironde, paysages et patrimoine, réalisée par les archives départementales de la Gironde, en partenariat avec le service régional du patrimoine et de l'inventaire, est toujours ouverte à la découverte du grand public. Invitation au voyage entre l'eau, le temps passé et le présent. L'objectif est de présenter le travail d'inventaire du patrimoine et des paysages des communes riveraines de l'estuaire. Documents, photos, films, témoignages oraux, objets et supports multimédia, à savourer sans modération.
Contact, archives départementales de la Gironde, 72 cours Bagueris-Tuttenberg, à Bordeaux, 05 56 99 66 00, www.archives.gironde.fr.
Musique, du 20 janvier au 17 février, toute la Gironde. Dans le cadre des petites scènes, l'IDAC et ses partenaires présentent I Am Strangram en tournée sur toute la Gironde. D'abord en résidence à Villeneuve-d'Ornon, du 16 au 20 janvier, I Am Strangram est le projet solo de Vincent Jouffroy, connu aussi pour son implication tonique dans les groupes My Auntie Giraffe et Alex et Gio, avec un folk anglo-saxon teinté de français et d'électro. Voilà une pop originale, tour à tour joyeuse et mélancolique, débraillée et exigeante, à découvrir d'urgence. Précisons qu'I Am Strangram a remporté le prix Ricard SA Live Music 2016 et qu'un album est en présentation d'ici les prochaines semaines.
Contact et toutes les dates de la tournée, www.idac.net.
Musique, du 20 janvier au 17 février, toute la Gironde. Dans le cadre des petites scènes, l'IDAC et ses partenaires présentent I Am Strangram en tournée sur toute la Gironde. d'abord en résidence à Villeneuve-d'Ornans, du 16 au 20 janvier, Ayam Stramgram et le projet solo de Vincent Jouffroy, connu aussi pour son implication tonique dans les groupes My NT Giraffe et Alex et Gio, avec un folk anglo-saxon teinté de français et d'électro. Voilà une pop originale, tour à tour joyeuse et mélancolique, débraillée et exigeante, à découvrir d'urgence. Précisons qu'Ayam Stramgram a remporté le prix Ricard SA Live Music 2016 et qu'un album est en présentation d'ici les prochaines semaines.
Contact et toutes les dates de la tournée, www.idac.net.
Pratique numérique, du 24 au 28 janvier, Bassins. Dans le cadre de son projet numérique de territoire, la ville de Bassins vous invite à une nouvelle édition de Fête numérique, Fête F-A-I-T-E-S. Tous les publics sont concernés par la découverte de pratiques diverses au travers d'expositions, d'ateliers, de rencontres et de visites au programme, musique, robotique, rétro gaming, entre autres. Visitez aussi l'expo sensorielle Pause à la médiathèque.
Contact www.mediaculture.ville-bassins.fr.
Pratique numérique, du 24 au 28 janvier, Bassins. Dans le cadre de son projet numérique de territoire, la ville de Bassins vous invite à une nouvelle édition de Fête numérique, Fête F-A-I-T-E-S. Tous les publics sont concernés par la découverte de pratiques diverses au travers d'expositions, d'ateliers, de rencontres et de visites au programme, musique, robotique, rétro gaming, entre autres. Visitez aussi l'expo sensorielle Pause à la médiathèque.
Contact www.mediaculture.ville-bassins.fr.
Grue cendrée, les 29 janvier, 5 et 12 février, Capcieux. L'équipe du Parc naturel des Landes de Gascogne vous invite à découvrir les grues cendrées. Arrivant de Scandinavie, elles font étape dans le parc où elles trouvent une nourriture abondante et des refuges pour la nuit. Avec un guide naturaliste, vous apprendrez en famille ou entre amis à reconnaître les comportements et les mœurs de ces oiseaux migrateurs fascinants. Tarif 10 euros, 6 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Réservation obligatoire.
Contact 06 80 94 54 02 www.parc-lande-2-gascogne.fr.
Grue cendrée, les 29 janvier, 5 et 12 février, Capcieux. L'équipe du Parc naturel des Landes de Gascogne vous invite à découvrir les grues cendrées. Arrivant de Scandinavie, elles font étape dans le parc où elles trouvent une nourriture abondante et des refuges pour la nuit. Avec un guide naturaliste, vous apprendrez en famille ou entre amis à reconnaître les comportements et les mœurs de ces oiseaux migrateurs fascinants. Tarif 10 euros, 6 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Réservation obligatoire.
Contact 06 80 94 54 02 www.parc-lande-2-gascogne.fr.
Microcrédit, du 30 janvier au 3 février, Lormont. La semaine du microcrédit se transforme en l'ADI Festival cette année. L'équipe de l'ADI Nouvelle-Aquitaine Midi-Pyrénées est mobilisée pour mieux servir et renseigner les futurs créateurs. Ils assisteront aux témoignages de celles et ceux qui ont tenté l'aventure. Pour mémoire, l'an passé, l'événement avait mobilisé 700 porteurs de projets dans notre région.
Contact 05 57 77 81 61 www.adie.org.
Microcrédit, du 30 janvier au 3 février, Lormont. La semaine du microcrédit se transforme en l'ADI Festival cette année. L'équipe de l'ADI Nouvelle-Aquitaine Midi-Pyrénées est mobilisée pour mieux servir et renseigner les futurs créateurs. Ils assisteront aux témoignages de celles et ceux qui ont tenté l'aventure. Pour mémoire, l'an passé, l'événement avait mobilisé 700 porteurs de projets dans notre région.
Contact 05 57 77 81 61 www.adie.org.
Jumping, du 2 au 5 février, Bordeaux. Voici une nouvelle édition du Jumping International de Bordeaux, dans le cadre du parc des expositions de Bordeaux-Lac. Seule étape française de la Coupe du Monde de la Fédération équestre internationale, le Jumping bordelais réunira une nouvelle fois l'élite des cavaliers mondiaux de saut d'obstacles.
Contact 09 69 39 10 33 www.jumping-bordeaux.com.
Jumping, du 2 au 5 février, Bordeaux. Voici une nouvelle édition du Jumping International de Bordeaux, dans le cadre du parc des expositions de Bordeaux-Lac. Seule étape française de la Coupe du Monde de la Fédération équestre internationale, le Jumping bordelais réunira une nouvelle fois l'élite des cavaliers mondiaux de saut d'obstacles.
Contact 09 69 39 10 33 www.jumping-bordeaux.com.
Vélo, les samedis 4 et 11 février, 4 et 11 mars, Bordeaux. Vélocité vous propose de changer de braquet et de vous remettre en selle, avec 2 sessions par mois le samedi matin. Si vous aimez le vélo mais craignez sa pratique en ville, profitez de bons conseils et astuces. Départ depuis le local de Vélocité, 16 rue Ozone à Bordeaux.
Contact 05 56 80 63 89 www.vélo.cité.org/pour-réviser/.
Vélo, les samedis 4 et 11 février, 4 et 11 mars, Bordeaux. Vélocité vous propose de changer de braquet et de vous remettre en selle, avec 2 sessions par mois le samedi matin. Si vous aimez le vélo mais craignez sa pratique en ville, profitez de bons conseils et astuces. Départ depuis le local de Vélocité, 16 rue Ozone à Bordeaux.
Contact 05 56 80 63 89 www.vélo.cité.org/pour-réviser/.
Cinéma, du 3 au 12 février, La Teste de Buch et Arcachon. Ciné sans frontières organise la 7e édition de son festival de films en version originale. Plus de 30 films sont diffusés au cinéma grand écran des villes de la Teste de Buch et d'Arcachon, dont 10 en compétition. Cette édition est l'occasion de donner un coup de projecteur sur le cinéma des pays de l'Est. Adultes et jeunes sont invités à profiter d'un événement cinématographique d'ampleur, mais aussi à participer à ces ateliers de découverte des métiers du cinéma.
Contact www.cinésansfrontières.jimdo.com.
Cinéma, du 3 au 12 février, La Teste de Buch et Arcachon. Ciné sans frontières organise la 7e édition de son festival de films en version originale. Plus de 30 films sont diffusés au cinéma grand écran des villes de La Teste de Buch et d'Arcachon, dont 10 en compétition. Cette édition est l'occasion de donner un coup de projecteur sur le cinéma des pays de l'Est. Adultes et jeunes sont invités à profiter d'un événement cinématographique d'ampleur, mais aussi à participer à ces ateliers de découverte des métiers du cinéma.
Contact www.cinésansfrontières.jimdo.com.
TAUE, les 11 et 12 février, Bordeaux. Le salon de la Maison Neuve qui se tient au parc des expositions, Hall 1, à Bordeaux-Lac, est l'occasion de rencontrer les architectes du CAUE de la Gironde. Vous voulez construire, restaurer, aménager, ces spécialistes vous conseillent gratuitement. Et pour ceux qui s'interrogent sur l'implantation de leur maison, Martine Combeau, architecte conseiller du CAUE, animera une conférence sur le thème « Bien implanter sa maison pour mieux y vivre ».
Contact CAUE 05 56 97 81 89 www.caueGironde.com.
TAUE, les 11 et 12 février, Bordeaux. Le salon de la Maison Neuve qui se tient au parc des expositions, Hall 1, à Bordeaux-Lac, est l'occasion de rencontrer les architectes du CAUE de la Gironde. Vous voulez construire, restaurer, aménager, ces spécialistes vous conseillent gratuitement. Et pour ceux qui s'interrogent sur l'implantation de leur maison, Martine Combeau, architecte conseiller du CAUE, animera une conférence sur le thème « Bien implanter sa maison pour mieux y vivre ».
Contact CAUE 05 56 97 81 89 www.caueGironde.com.
Parcours nature. Le samedi 11 février, montagne Saint-Émilion. Venez découvrir à votre rythme le grand Saint-Émilionnais grâce à une grande journée parcours nature. Vous aurez le choix entre le VTT, la randonnée ou le trail pour explorer un territoire aux mille richesses. L'événement est ouvert à tous, au gré de 4 parcours différents, 18, 36, 48 ou 62 km. Inscription obligatoire jusqu'au 2 février.
Contact gironde.fr/parcoursnature.
Parcours nature. Le samedi 11 février, montagne Saint-Émilion. Venez découvrir à votre rythme le grand Saint-Émilionnais grâce à une grande journée parcours nature. Vous aurez le choix entre le VTT, la randonnée ou le trail pour explorer un territoire aux mille richesses. L'événement est ouvert à tous, au gré de 4 parcours différents, 18, 36, 48 ou 62 km. Inscription obligatoire jusqu'au 2 février.
Contact gironde.fr/parcoursnature.
Bœuf gras, le jeudi 23 février, Bazas. Depuis 1283, chaque jeudi précédant Mardi Gras, la cité de Bazas accueille la célèbre fête des bœufs gras, au cours de laquelle sont présentés les plus beaux spécimens de la race bazadaise. Parés de rubans et de couronnes fleuries, les bœufs défilent au son des fifres et des tambours dans les rues de la cité, avant d'être jugés par un jury d'experts, place de la cathédrale. La journée s'achève par un banquet où l'on peut déguster du bœuf de Bazas certifié label rouge.
Contact Office de tourisme du Bazadais 05 56 25 25 84 www.tourisme-bazadais.com.
Bœuf gras, le jeudi 23 février, Bazas. Depuis 1283, chaque jeudi précédant Mardi Gras, la cité de Bazas accueille la célèbre fête des bœufs gras, au cours de laquelle sont présentés les plus beaux spécimens de la race bazadaise. Parés de rubans et de couronnes fleuries, les bœufs défilent au son des fifres et des tambours dans les rues de la cité, avant d'être jugés par un jury d'experts, place de la cathédrale. La journée s'achève par un banquet où l'on peut déguster du bœuf de Bazas certifié label rouge.
Contact Office de tourisme du Bazadais 05 56 25 25 84 www.tourisme-bazadais.com.
Habitat. Les 15 et 16 mars, Bordeaux. Le grand public est invité par le département aux deuxièmes journées girondines de l'habitat, dans l'amphithéâtre Badinter de l'immeuble Gironde, cours du Maréchal Juin à Bordeaux. Ouvert au grand public, l'événement vous permettra d'aborder de nombreuses questions liées au logement et à l'habitat.
Contact, Direction de l'Habitat et de l'Urbanisme du département, 05 56 99 35 28, gironde.fr.
Habitat. Les 15 et 16 mars, Bordeaux. Le grand public est invité par le département aux deuxièmes journées girondines de l'habitat, dans l'amphithéâtre Badinter de l'immeuble Gironde, cours du Maréchal Juin à Bordeaux. Ouvert au grand public, l'événement vous permettra d'aborder de nombreuses questions liées au logement et à l'habitat.
Contact, Direction de l'Habitat et de l'Urbanisme du département, 05 56 99 35 28, gironde.fr. Gironde Mag, magazine édité par le département de la Gironde, direction de la communication, 1 Esplanade Charles de Gaulle, CS 71-223, 33-074 Bordeaux CEDEX, téléphone 05 56 99 33 33, directeur de la publication Frédéric Duprat, rédacteur en chef Didier Beaujardin, coordination Laurence Tauzin, rédaction Didier Beaujardin, Laurent Brun, Bénédicte Coudière, Stéphanie Coy, Laure Espieux, Sophie Poirier, Carole Ratier, Richard Zéboulon. Crédit photo, Anaka, Anne-Laure Boyer, CAUE Gironde, Sabine Delcourt, Alban Gilbert, Graine Aquitaine, IDAC, Sébastien Le Clésio, mairie de Bruges, mairie de Tresse, Aurélien Marco, Anne-Sophie Moffret-Rochelet, Motor Garage, JB Nadeau, Office du Tourisme de Bourg, Réseau Paulbert, S. Carreau, Sébastien Saint-Deux, dont la photo de couverture, Delphine Tambourin de Guy, Richard Zéboulon. Photothèque du département, service du département. Conception graphique, agence CEPA Bordeaux. Pré-presse et chromie, Scoop Communication, Olivet. Impression sur papier, FSC recyclé 100%, Email graphique Laval, dépôt légal à parution, tirage 559 500 exemplaires, ISSN 1141-5932. Gironde Mag est distribué gratuitement dans tous les foyers girondins, imprimé en braille et audio traduction. Si vous souhaitez aussi recevoir Gironde Mag, 05 56 99 33 33, poste 37 24. Gironde Mag, magazine édité par le département de la Gironde, direction de la communication. 1 Esplanade Charles de Gaulle, CS 71 223, 33 074 Bordeaux CEDEX, téléphone 05 56 99 33 33. Directeur de la publication Frédéric Duprat. Rédacteur en chef Didier Beaujardin. Coordination Laurence Tauzin. Rédaction Didier Beaujardin, Laurent Brun, Bénédicte Coudière, Stéphanie Coy, Laure Espieux, Sophie Poirier, Carole Ratier, Richard Zéboulon. Crédit photo, Anaka, Anne-Laure Boyer, CAE Gironde, Sabine Delcourt, Alban Gilbert, Graine Aquitaine, Idac, Sébastien Le Clésio, mairie de Bruges, mairie de Tresse, Aurélien Marco, Anne-Sophie Moffret-Rochelet, Motor Garage, JB Nadeau, Office du Tourisme de Bourg, Réseau Paulbert, S. Carreau, Sébastien Saint-Deux, dont la photo de couverture, Delphine Tambourin de Guy, Richard Zéboulon. Photothèque du département, service du département. Conception graphique, agence CEPA Bordeaux. Pré-presse et chromie, Scoop Communication, Olivet. Impression sur papier, FSC recyclé 100%, Email graphique Laval, dépôt légal à parution, tirage 559 500 exemplaires, ISSN 1141-5932. Gironde Mag est distribué gratuitement dans tous les foyers girondins, imprimé en braille et audio traduction. Si vous souhaitez aussi recevoir Gironde Mag, 05 56 99 33 33, poste 37 24. La quatrième de couverture représente une maman souriante sur un fauteuil roulant. Elle est entourée de trois jeunes enfants à la mine espiègle.
En arrière-plan et en très gros caractère, Antinéa avance.
Au premier plan, également en très gros caractère,
nous avançons avec elle.
Antinéa, maman professeure de français à Talence, retrouvez en page 25 son témoignage.
Que vous soyez concerné par un handicap visible ou invisible, le département et la MDPH vous apportent l'aide financière et les accompagnements auxquels vous avez droit.
Pour vous faciliter l'accès à l'information et aux conseils, 9 lieux vous accueillent en Gironde, Bordeaux, Castelnau-de-Médoc, Lenton, La Réole, Libourne, Lormont, Mérignac, Saint-André-de-Cubzac, Talence. www.mdph33.fr, un numéro unique, 05 56 99 66 99. La quatrième de couverture représente une maman souriante sur un fauteuil roulant. Elle est entourée de trois jeunes enfants à la mine espiègle.
En arrière-plan et en très gros caractère, Antinéa avance.
Au premier plan, également en très gros caractère,
nous avançons avec elle.
Antinéa, maman professeure de français à Talence, retrouvez en page 25 son témoignage.
Que vous soyez concerné par un handicap visible ou invisible, le département et la MDPH vous apportent l'aide financière et les accompagnements auxquels vous avez droit.
Pour vous faciliter l'accès à l'information et aux conseils, 9 lieux vous accueillent en Gironde, Bordeaux, Castelnau-de-Médoc, Lenton, La Réole, Libourne, Lormont, Mérignac, Saint-André-de-Cubzac, Talence. www.mdph33.fr, un numéro unique 05 56 99 66 99.